Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Thibaut Texer est avec nous, c'est l'heure du journal. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Rima Hassan, jugée en juillet pour apologie du terrorisme, l'eurodéputée insoumise, est ressortie libre de sa garde à vue hier soir. Dans les Ardennes, une adolescente de 16 ans a reconnu le meurtre de ses grands-parents, retrouvés morts mardi matin dans leur cave. Elle a été mise en examen et écrouée hier soir avec son petit ami. Et du monde sur la route pour le départ des vacances, le week-end de Pâques aussi avec son chocolat, cher aux amateurs et au portefeuille, en hausse de 4% cette année.
Rima Hassan sera jugée en juillet.
Elle est ressortie libre de sa garde à vue. Hier soir, après 14 heures d'interrogatoire, l'eurodéputée insoumise avait été convoquée pour apologie du terrorisme en raison d'un tweet publié sur X. Et c'est donc pour cette raison, Constance Bostoen, qu'elle sera jugée cet été.
Oui, Rima Hassan sera jugée le 7 juillet prochain devant le tribunal correctionnel pour apologie du terrorisme commis en ligne, un délit pour lequel elle risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. En cause, selon le parquet de Paris, une publication de l'eurodéputée la semaine dernière sur le réseau social X, où elle rend hommage et cite Kozo Okamoto, l'auteur de l'attentat contre l'aéroport de Tel Aviv en 1972, qui avait fait 26 morts et une centaine de blessés. Au-delà du délit d'apologie du terrorisme présumé, Rima Hassan a également été interrogée hier lors de sa garde à vue sur le contenu de son sac à main, car au moment de se présenter au commissariat, les policiers ont découvert dans les affaires de l'eurodéputé près de 2 grammes de 3-MMC, une drogue de synthèse. Selon le parquet de Paris, ces éléments feront l'objet ultérieurement d'une procédure distincte.
Et sur ce dernier point, l'insoumise démence, la présence de CBD a été constatée parmi ses effets personnels, dit-elle. Elle doit tenir une conférence de presse cet après-midi. Un premier gros dossier sur la table du maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui va détailler ce matin ses premières mesures contre les violences sexuelles dans le périscolaire parisien. Des annonces forcément très attendues par les parents d'élèves.
Il est 7h02 sur RMC, deux adolescents mis en examen et écroués pour assassinat dans les Ardennes.
Parmi eux, la petite fille du couple de septuagénaires retrouvés morts dans leur cave. Mardi matin, à Villers-Semeuse, âgée de 16 ans, elle a reconnu la préméditation de son acte. Son petit ami de 15 ans reconnaît lui aussi avoir participé au fait, requalifié en assassinat, un geste motivé par l'opposition de ses grands-parents à leur relation amoureuse. Un couple scolarisé dans un lycée professionnel de Sedan. Amélie Courtet s'est rendue sur place pour RMC.
Dans la cour du lycée, dans les couloirs, le couple d'adolescents ne se lâchait pas.
Vraiment l'amour fou, quoi. Mais un peu trop fou, justement.
Décrit Diego, un de leurs camarades en CAP mécanique.
C'était un peu bizarre. Ils étaient jamais séparés, en fait. Même des fois, ils séchaient pour se voir. Jamais vraiment compris. Moi.
Les lycéens parlent d'elle comme d'une fille très calme, timide, stressée. Toujours un rouge à lèvres rouge et un grand manteau beige.
C'était pas des éléments provocateurs et tout. Bah, ils étaient dans leur coin.
C'est vraiment des élèves discrets.
Lui, souvent vêtu de noir, avec une sacoche, une balafre sur le visage. Un garçon assez space, selon leurs mots assez étranges, violents aussi, précise Ryan, 17 ans.
Il avait planté une meuf à la gare de Sedan avec un ciseau.
C'était en septembre dernier, confirme le procureur de Reims lors d'une conférence de presse.
Sur fond de dispute amoureuse, semble-t-il.
Concernant les auditions des deux lycéens sur le meurtre des grands-parents de la jeune fille, il souligne...
Aussi bien les enquêteurs que les magistrats du parquet qui ont eu à les interroger ont tous été frappés par leur absence complète d'émotion et leur froideur générale, hormis quelques pleurs.
Le procureur ajoute que l'un comme l'autre ont tout de même exprimé de la tristesse et du regret.
Et les deux lycéens encourent 20 ans de réclusion criminelle. C'est ce matin que le tribunal administratif de Paris doit se prononcer sur le maintien ou non de la rencontre annuelle des musulmans de France au Bourget ce week-end, interdit par la préfecture de police de Paris en raison de risques de troubles à l'ordre public liés à une possible ingérence étrangère ou un groupe d'ultra-droite. L'avocat des organisateurs n'y croit pas. Dans le journal Le Parisien, Laurent Nunez dit lui avoir demandé l'interdiction de l'événement en raison d'un rapprochement entre les organisateurs et les frères musulmans.
Laurent Nunez qui sera l'invité du face-à-face ce matin au micro de Marie Chantrey à 8h30 sur RMC et BFM TV. La sécurité intérieure au cœur des préoccupations du gouvernement.
Au cœur des préoccupations sur fond de guerre au Moyen-Orient, les services de l'État sont en alerte. C'est le message du Premier ministre en déplacement hier à Bordeaux, inquiet Maxime Cliérusa de menaces hybrides et d'une nouvelle forme de terroriste.
Oui, Sébastien Lecornu explique que les services iraniens peuvent instrumentaliser des proxys, autrement dit activer à distance des relais présents sur le territoire français pour commettre ces attentats. Le chef du gouvernement fait directement référence à l'attentat déjoué contre une banque américaine vendredi dernier en plein Paris. Une tentative à la suite de laquelle le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, avait demandé un renforcement de la vigilance envers les sites israélo-américains à l'image des banques ou encore des ambassades. Une menace terroriste qui préoccupe particulièrement le gouvernement en cette période de fête de Pâques, juive et chrétienne. Autant d'événements pour lesquels Laurent Nunez a là aussi ordonné au préfet un renforcement de la sécurisation visant notamment les offices et rassemblements religieux.
La guerre au Moyen-Orient qui profite aux compagnies pétrolières. C'est ce que dit Greenpeace. L'organisation accuse les géants du secteur d'avoir engendré plus de 80 millions d'euros de surprofits par jour au sein de l'Union européenne depuis le début du mois de mars. Des carburants au plus haut comptaient 2 euros le litre en moyenne en France à l'aube d'un week-end de Pâques qui marque aussi le début des vacances scolaires pour la zone A. Bison futé hisse le drapeau orange dans le sens des départs ce vendredi. Ce sera même rouge en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.
80 millions d'euros de surprofits par jour en Europe, dit Greenpeace. On cherchait l'argent des carburants. Si Greenpeace a raison, on voit où il est arrivé. Puis une fois qu'on a fait le plein, s'il reste un peu d'argent, c'est Pâques. On va s'acheter des chocolats peut-être.
Une chasse aux œufs qui, elle aussi, va vous coûter cher. En hausse de 4% le chocolat cette année dans les grandes surfaces par rapport à l'an dernier. Selon une étude du FC Que Choisir, bien qu'onéreux, difficile de renoncer à ce plaisir gourmand. Pierre Bourgès, notre correspondant à Bordeaux, a pu le constater dans les rues de la ville.
Devant la vitrine du chocolatier, le regard de Nelly ne se pose pas sur les lapins ou les œufs, mais plutôt sur leur prix.
Le moins cher, un petit carré Guy Chocolat, faut pas le compter, pas loin de 7-8 euros, c'est pas donné. Et puis voilà, le reste c'est hors de prix quoi. Il y avait des trucs à 20 euros. Si vous voulez la grosse cocotte en chocolat, c'est hors de prix.
Alors comme l'année dernière, elle en prendra moins que d'habitude. Lise sort de la boutique avec 44 euros de chocolat. Elle a fait attention à prendre les moins chers.
Justement pour pas trop dépenser, parce que ça reste un produit de luxe quand même.
Mais ça n'empêche pas Emmanuel qui sort du magasin d'en profiter.
J'en ai pour 90 euros. C'est une fois par an, donc c'est pas très grave. Le reste de l'année, j'achète pas ici. J'achète uniquement pour Pâques.
En un an, le cours du chocolat a été divisé par 3. Alors pourquoi le prix en magasin ne baisse pas? Explication de Xavier Lallaire, chocolatier à Bordeaux.
Comme on n'a pas répercuté la totalité des hausses qu'on a subies, on récupère aussi comme ça un peu cette année. Mais il y a aussi le fait que les fournisseurs ne fabriquent pas forcément avec la récolte qu'ils viennent d'avoir. Là, je suis en ce moment au plus haut de ce que j'ai payé jusque-là. Mais l'année prochaine, ça ira mieux aussi.
Son produit phare pour Pâques 2026, un petit hérisson de 88 grammes à 10,50 €.
Le coup d'envoi de la 28e journée de Ligue 1 ce soir 20h45 sur AMC. Toulouse se déplace sur la pelouse du PSG avant son quart de finale de Ligue des Champions face à Liverpool la semaine prochaine. La Coupe d'Europe et le sacre du PSG évoqué par Kylian Mbappé dans un podcast animé et produit par son coéquipier Aurélien Tchouaméni, dans lequel Kylian Mbappé assure ne pas avoir de rancœur. Et puis ils ont quitté l'orbite terrestre. Les 4 astronautes de la mission Artemis 2 ont mis les gaz direction la Lune qu'ils vont contourner dans 3 à 4 jours et devenir par la même occasion les humains à aller le plus loin de la Terre.
Oh là là, c'est toujours impressionnant hein, que la conquête spatiale, je sais pas si vous avez eu la chance de voir les images du décollage, les vidéos. C'est autre chose que l'émission Apollo dans les années 70, hein, la qualité de l'image.
Hein. Ah bah c'est...
Je tiens à dire que là-dessus, on a progressé. Merci Thibaut Texer, merci beaucoup. 7h08 sur RMC, vous avez dit, ils ont mis les gaz, ouais. Ouais. Ils ont trouvé du carburant, eux, a priori. La question des pénuries, on va l'évoquer, la question des prix surtout, la question des privations que ça suscite sur les vacances, sur vos courses, sur le week-end de Pâques. Vous n'hésitez pas, on vous attend au 32-16. Hassan est avec nous dans l'Hérault ce matin. Bonjour Hassan.
Oui, bonjour à toutes et tous.
Soyez le bienvenu, vous êtes transporteur vous-même, transporteur routier, ce qui veut dire que vous circulez pas mal. Déjà, est-ce qu'il y a moins de monde sur les routes ou pas, Hassan?
Alors non, c'est ce que je disais tout à l'heure à vos collègues sur le standard.
Moi,
je
constate Clément, il s'appelle.
Mais écoutez, voilà, enchanté Clément, enchanté tout le monde. Je constate que ça vit, ça bouge, les Français profitent plutôt de la vie. Moi, je vous disais, le week-end dernier, j'étais... à Montpellier, j'étais à la Comédie, j'étais à Auditium, enfin différents endroits, et je constatais que ben voilà, les gens consommaient, les terrasses étaient pleines, ça vivait, ça bougeait. Voilà, j'en ai vraiment assez de d'entendre sans arrêt les gens se plaindre. On est champion du monde de l'épargne.
C'est vrai qu'on est champion du monde de l'épargne. Mais honnêtement là, si je vous dis, parce que Manuel Le Chypre va nous dire ça tout à l'heure, Manuel Le Chypre. Et qu'on pourrait atteindre les 3 euros sur le gasoil par endroit à la fin de ce week-end. Franchement, Hassan, il y a quand même un petit choc thermique, même si on continue d'aller au café.
J'entends très bien, mais à ce moment-là, arrêtons de consommer. Ce que je dis, je suis président d'un club de foot, on fait des déplacements en plus d'une heure, ça râle, mais tout le monde se déplace. Donc ça vit, ça bouge. Maintenant, c'est pour ça que il y a vraiment une contradiction. Moi, j'entends maintenant, si ça va vraiment mal, mais arrêtons de consommer.
Non, j'entends ce que vous dites, Hassan. Alors, cela dit, faisons la part des choses. Il y en a pour qui c'est moins douloureux que pour d'autres. Et il y en a qui, effectivement, affirment avoir réduit leur consommation. Un tiers des Français qui se privent parfois de nourriture, parfois même de médicaments, nous disait l'Institut Montaigne dans le Morning, au micro d'Élise et de Victor tout à l'heure à 6h40. Vous continuez à réagir au 32-16, Hassan. C'est une réalité, hein, ce qu'il nous dit. Il y a du monde sur la route, il y a du monde en terrasse. Est-ce que chez vous, ça a eu un impact? Est-ce que vous vous privez? Est-ce que ça change vos vacances ou votre week-end de Pâques? On vous attend ce matin au 32-16, n'hésitez pas. Un ancien policier soupçonné d'avoir tué sa conjointe et son ex-compagne au Portugal, Cédric Prison, doit être extradé vers la France. Bonjour Stéphanie Lamy.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse spécialiste de la guerre de l'information. Pour vous, les faits reprochés à Cédric Prison relèvent du terrorisme masculiniste. C'est votre parti pris dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h14 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. Cédric Prison, vous avez suivi cette affaire. Ancien policier accusé d'un double féminicide. C'est cet homme interpellé au Portugal avec ses deux enfants, soupçonné d'avoir tué son ex-conjointe et sa compagne actuelle. Stéphanie Lamy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse, vous avez publié La terreur masculiniste aux éditions du Détour. Et c'est votre parti pris ce matin. Vous affirmez que les faits reprochés à Cédric Prison relèvent du terrorisme masculiniste. Avant d'explorer cette question juridique importante que vous posez, d'un mot, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce que signifie masculiniste?
Alors le masculinisme, c'est une forme de suprémacisme masculin. Et donc, ce qui distingue en fait le sexisme et la misogynie du masculinisme, c'est l'action collective d'une part, et l'androcentrisme, c'est-à-dire concentrer toute l'attention uniquement sur la condition masculine, d'autre part. Donc, en fait, les masculinismes sont multiples. Vous avez plusieurs branches. Tous les milieux masculinistes vont développer des formes de violence, voire faire l'apologie des violences. Et par ailleurs, les pères séparés, donc c'est le groupe dans lequel Cédric Prison s'est radicalisé.
Oui, un groupe de papas en colère, oui.
Voilà, c'est en fait la branche historique, le canal historique de toutes les mouvances masculinistes.
Et vous avez utilisé un mot important, c'est radicalisé. On va y revenir. Vous êtes à l'origine, Stéphanie Lamy, d'une pétition qui demande à ce que le parquet national antiterroriste soit saisi de cette affaire Cédric Prison. Hier soir, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a fait la même requête et vous donne raison pour que cette enquête et le procès qui suivront servent d'électrochoc, dit le Haut Conseil à l'égalité. Qu'est-ce qui permet, selon vous, de qualifier ces actes dont est accusé Cédric Prison de terrorisme?
Alors, ce qui différencie en fait les violences crapuleuses ou interpersonnelles du terrorisme, c'est de viser une cible première pour atteindre une cible symbolique. Ce qui se passe dans les milieux radicaux des pères séparés, c'est qu'ils vont vouloir instaurer la loi des pères au-dessus des lois de la République. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire Cédric Prison. On sait très bien qu'il a participé dans ces milieux-là. Il a manifesté devant le tribunal de Rodez, il a fait une grève de la faim, il a participé dans un groupe Facebook, il a publié des contenus de la propagande sur les réseaux sociaux en expliquant que la justice est favorable aux femmes, ce qui est de la désinformation. Ensuite, vous avez aussi des contenus, il va dire que, par exemple, d'être un père, c'est un crime, qui va foutre le bordel, j'utilise ces termes, foutre le bordel au niveau national au nom de la cause paternelle. Donc, tous ces éléments-là permettent de dire que, voilà, il est quand même dans une démarche politique, que c'est pas juste une affaire interpersonnelle, et que là, pour le coup, on devrait pouvoir saisir, le PNAT devrait pouvoir se saisir pour
examiner.
Voilà. Devrait pouvoir se saisir pour pouvoir examiner le milieu dans lequel il était radicalisé.
Et alors, ça fait plusieurs fois que vous l'utilisez ce mot, et d'ailleurs, pardonnez-moi, Bérangère Couillard, du Haut Conseil à l'égalité, l'a utilisé aussi. On se radicalise masculiniste via le processus que vous venez de décrire. C'est ça qui fait que, selon vous, on n'est pas dans un fait divers, mais dans un fait de quoi? De société?
Oui, c'est un projet politique. Le masculinisme,
c'est un projet politique.
Donc, c'est le suprémacisme masculin en réaction des avancées des droits des femmes. Comme je disais, le canal historique des masculinismes, c'est les groupes de pères séparés. Ils se sont formés dans les années 60-70 en opposition à l'autorité parentale conjointe et aux droits économiques des femmes divorcées. Donc, on est sur une...
Et ils vont estimer que les juges sont des femmes et que la justice est féminisée, etc. C'est ce canal-là dont vous parlez. Mais pardonnez-moi, il y a ce courant de pensée que vous décrivez et il y a le passage à l'acte. Il y a quand même une nuance, Stéphanie Lamy.
Oui, bien sûr. Donc, vous avez un courant de pensée. En fait, la manière dont la radicalisation a eu lieu, c'est qu'il va reconfigurer un grief personnel, une attente perçue à l'identité masculine en grief collectif. Et c'est ce qui s'est passé quand il a rejoint le groupe Facebook, où il a publié « Ah, je vois, je ne suis pas seul ». Et ensuite, il a participé avec d'autres pères dans des actions plutôt non violentes au départ, mais il a également harcelé son ex. Il a été condamné par ses productions au nom de la cause paternelle.
Avec cette question, est-ce qu'il faut craindre des passages à l'acte nouveaux de cet ordre-là du terrorisme misogyne? On va pas faire de, on n'a pas de boule de cristal ni vous ni nous, Stéphanie Lamy.
Ça a déjà eu lieu.
Il y a déjà
en
eu,
fait, bah, le PNAT a déjà été saisi juillet dernier pour les incels, pour une autre mouvance de la branche, une autre branche du masculinisme. Donc là, ce qu'on demande, c'est que tous les milieux masculinistes soient considérés comme pouvant susciter l'acte terroriste.
Stéphanie Lamy, oui, vous parliez de ce lycéen de 18 ans soupçonné de vouloir attaquer des femmes avec des couteaux, arrêté et puis donc mis en examen par le parquet national antiterroriste en juillet dernier. Merci de l'avoir rappelé. Merci Stéphanie Lamy de nous avoir éclairé sur votre parti pris. La terreur masculiniste est votre livre. Il y avait déjà cette notion de terrorisme. Est-ce qu'il faut considérer les masculinistes radicalisés, le cas Cédric Prison lui-même, pour être précis, comme relevant du parquet national antiterroriste? C'est aussi le débat. On vous attend ce matin au 32-16. Merci Stéphanie Lamy. Je rappelle que vous êtes à l'origine de cette pétition qui demandait la saisie du PNAT. 7h19. Dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
Une bouteille de vin a battu un record de prix il y a quelques jours. Mais Arthur, qui en premier a inventé la bouteille?
Eh bien, je vais vous surprendre, Mathieu, mais ce sont les Anglais.
Non.
Eh oui, comme quoi on peut faire du mauvais vin tout en ayant de bonnes bouteilles, voilà.
Oh, la chute me va mieux. Tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, avec vous, Arthur Chevalier, on va dire du bien des Anglais. Avec le vin, c'est assez étonnant. C'est un record mondial qui vient d'être battu dans une vente aux enchères à New York. Et ça ne concerne pas n'importe quel objet, on parle bien sûr d'une bouteille de vin.
Oui, 812 500 $. Voilà à combien est partie cette bouteille exceptionnelle. Une bouteille française, hein, puisque c'est un vin rouge de Bourgogne. Un Romane Conti de 1945. C'est un des meilleurs vins du monde, hein, la Romane Conti. Le précédent record était d'ailleurs déjà détenu par une bouteille de Romane Conti. Elle avait été vendue en 2018 pour 558 000 $.
Ouais, elle a 812 000 $, un appart à Paris.
Ouais.
Petit appart, mais bon, appart. Depuis quand est-ce qu'on conserve le vin dans des bouteilles, Arthur?
Eh bien, c'est assez récent, hein. À l'origine, le vin, on le conservait dans des tonneaux, naturellement, et on le servait dans des pots en terre cuite. Prenez les Romains, ils buvaient beaucoup de vin, mais à table, le vin n'était pas dans des bouteilles, mais dans des amphores, c'est-à-dire des sortes de grands vases avec des oreilles. Les bouteilles en verre existaient, mais on s'en servait pour mettre du parfum, pas pour mettre du vin.
Et quand est-ce qu'on invente la première bouteille de vin? C'est une invention française?
Eh bien non, ce n'est pas une invention française, Mathieu, et vous allez être surpris puisque c'est une invention anglaise. Hein. La première bouteille destinée au vin, ça date de 1662. C'est l'invention d'un diplomate anglais qui s'appelait Kenelm Digby. Et alors, pour fermer la bouteille, il a déjà l'idée d'utiliser un bouchon en liège, hein, exactement comme aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs grâce à la bouteille qu'on s'est rendu compte que le vin s'améliorait en vieillissant quand il était bien conservé.
Alors en France, à table, on servait déjà le vin dans les bouteilles du coup?
Alors nous, c'est différent, Mathieu. Hein. Pendant longtemps, les bouteilles ne sont pas sur les tables. Le vin est dans des tonneaux et on le sert en général dans une carafe, sur un plateau. Il faut attendre le 18e siècle pour qu'on autorise ne serait-ce que de transporter du vin dans des bouteilles. Cette autorisation, elle est d'ailleurs venue directement du roi Louis XV. Et c'est arrivé grâce au champagne, puisque évidemment le champagne, comme il y a des bulles, ben, vous n'avez pas le choix, il vous faut une bouteille. Et à partir de là, l'usage s'est généralisé.
Alors les bouteilles, elles ressemblaient déjà à celles qu'on utilise aujourd'hui?
Bah alors pas vraiment, parce qu'en fait on utilisait un peu ce qu'on avait sous la main, donc il n'y avait pas de bouteille type, de bouteille uniformisée si vous voulez. Il faut attendre 1866 pour qu'on uniformise en France les bouteilles, et on décide donc qu'elles feront 0,75 centilitres, comme aujourd'hui.
Mais tiens, pourquoi 0,75 centilitres?
Eh bien c'est une très bonne question. Parce que les plus gros importateurs de vin français, c'était les Anglais.
Encore eux.
Et les Anglais avaient leur propre unité de mesure pour les liquides. Cette unité de mesure, ça s'appelle le gallon. Ils achetaient donc le vin par gallon. Un gallon, ça faisait 4,5 litres. Donc pour standardiser les exportations, vers la Grande-Bretagne. Les vignerons français se sont dit qu'un gallon divisé par 6, ça donnait un chiffre à peu près rond, 0,75 centilitres.
Wow.
Et c'est aussi ce qui explique pourquoi tous les cartons et toutes les caisses de vin sont tous par 6.
C'est par 6, ça fait un gallon en fait.
Vous le savez.
On achète une caisse de vin, on achète un gallon.
Exactement.
Ben, merci Arthur Chevalier, on apprend merci, en Mathieu. S'amusant. L'historien d'Apolline Matin, même si on dit du bien des Anglais, on va rappeler aussi que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, que c'est à consommer avec modération. En revanche, l'écoute ou la réécoute des chroniques d'Arthur, c'est à volonté, allez-y sur l'appli RMC. Il est 7h24.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Il est là. Bonjour Arnaud Demanche.
Bonjour.
À 8h30 bonjour. Tout à l'heure sur RMC et BFM TV, l'invité du face-à-face, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.
Ouais, vraiment, il y a des chouchous ici. Hein. Je veux pas dire, mais voilà, Arthur Chevalier, il a droit à une belle chronique sur le pinard. Il a pu faire un joli texte sur les bouteilles de vin. Il a même bu du vin toute la soirée en disant « C'est pour le travail !» Et moi, j'ai Laurent Nunez. Voilà. Je tape Laurent Nunez dans Google et je vois les propos de Laurent Nunez sur le voilement des fillettes font polémique. Et allez, vas-y l'humoriste, fais une super chronique sur le voile. L'équilibriste. Non, mais c'est un sujet qui passionne les Français. T'as régulièrement des éruptions sur le thème du voile. T'allumes BFM, nouvelle polémique sur le voile. CNews, le voile déchire les Français. M6, la France a un incroyable voile. Le voile de la tentation. Recherche appartement, wallah. Qui veut épouser ma fille voilée? Et tout le monde s'engueule, ça débat. Et à la fin, t'as Laurent Nunez qui débarque en disant « Notre pays ne doit pas se diviser sur le voile. Enfin, » j'ai l'impression que c'est déjà un peu le cas quand même. Laurent Nunez a donc déclaré il y a quelques semaines qu'il refusait d'interdire le voile pour les mineurs. Je cite « Je ne crois pas qu'en portant le voile, des enfants menacent le vivre ensemble. Il refuse donc de courir le risque de stigmatiser des gamines. » Alors, petite parenthèse, si le voile pour les fillettes, c'est comme les femmes, c'est fait pour qu'elles n'attirent pas le regard de l'homme, ça ne changera rien du tout. Je veux dire, si un homme est attiré par un enfant, il n'y a qu'une combinaison électrifiée qui va l'arrêter. Il fait « C'est mignonne, toi !» Allez, dans la gueule, Claude François, mais il n'y a que ça qui marche. Alors, pourquoi ça clash autant, le voile? J'ai ma petite théorie.
J'étais sur Claude
attention,
François
conférence TEDx. Le voile, il y a des femmes qui le portent parce qu'elles veulent être pudiques aux yeux de Dieu. Mais en France, il y a plein de gens qui ont reçu une éducation chrétienne. Et pour eux, c'est dur à comprendre parce que chez les chrétiens, Dieu n'est pas pudique. Je vous rappelle qu'au début, Adam et Ève vivent au paradis et ils sont à
tout
poil,
nu.
Tout nus.
Ouais.
Et ils croquent la pomme et c'est là qu'ils réalisent qu'ils sont tout nus. Et ils ont honte. Alors ils se couvrent et ça met Dieu en colère. Ils débarquent en disant « Salut ! Salut Adam ! Salut Ève ! Et Adam ! Chabite ! Hey, qu'est-ce que c'est que ces vêtements là ? Vous foutez de qui ? Allez à poil ! À poil ! Allez, tout le monde à poil ! Le petit bonhomme en bouche.
Vous n'avez pas honte ?
Ben non. Alors eux ils répondent « Ben non, nous on n'aime plus être nus. »
À poil, je vous dis !
Alors évidemment, si de l'autre côté tu crois que Dieu est pudique, eh ben c'est contradictoire avec le hippie nudiste. Et c'est pour ça qu'on ne se comprend pas dans cette société. Voilà, c'est pour ça que le débat revient régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez que je vulgarise comme ça des sujets compliqués.
Franchement.
Je peux faire aussi des séminaires d'entreprise.
Même faire la physique quantique lundi.
La physique quantique, on y va. Mais en attendant, c'est rendez-vous avec Laurent Nunez à 8h30.
Merci beaucoup Arnaud Demange, qu'on retrouve tout à l'heure. Et en podcast quand on le veut, bien sûr. Tout à l'heure, c'était à 8h20 sur RMC et RMC Story. Après le journal, le début des vacances pour la zone A, le week-end de Pâques. Impacté évidemment par le prix des carburants. Est-ce que vous avez changé vos habitudes, changé vos plans? Surtout dites-le nous au 32-16. On revient dans quelques secondes, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure de retrouver Clara Gabillet pour un nouveau journal. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il avait promis d'en faire son premier combat. Les parents d'élèves attendent désormais des actes du nouveau maire de Paris contre les violences sexuelles dans le périscolaire. Ses premières mesures annoncées ce matin. Des Français contraints de choisir entre le plein d'essence et les courses alimentaires. Ils sont un tiers à se serrer la ceinture selon une étude. Et puis à Honfleur en Normandie, la carte postale est un peu écornée. Une partie du port fermée à cause d'un risque d'effondrement.
C'est aujourd'hui que le maire de Paris dévoile ses premières mesures.
Conférence de presse en fin de matinée qui sera sûrement suivie de près par de nombreux parents d'élèves inquiets des nombreux cas de violences sexuelles dans le périscolaire. Emmanuel Grégoire a promis d'en faire son premier combat pour protéger les enfants. Julie Brault, service police-justice d'RMC, certains parents veulent du concret et vite.
Depuis plus de deux mois, Marie n'attend qu'une seule chose.
Moi, j'ai besoin que mon fils soit entendu. On comprend pas, on sait très bien que les enfants de 4 ans et demi, en fait, il faut prendre leur parole très vite parce qu'ils oublient, ils se protègent, ils n'ont pas la même notion du temps que nous, donc il faut leur parler très vite. Et là, C'est long sans nouvelles.
La mère de famille a porté plainte le 23 janvier après que son fils de 4 ans et demi lui a confié qu'un animateur lui a touché les fesses et le sexe à l'école, mais depuis, rien ne bouge.
On a essayé de joindre le parquet, la brigade des mineurs qui nous ont dit que l'enquête n'avait pas commencé. On se sent très seul face à des institutions et moi, ce que j'ai peur, c'est que tu sois mis de côté et qu'on continue de ne pas croire les enfants ou de miser leurs paroles.
Un cas loin d'être isolé, déplore maître Kathleen Taïeb, avocate de plusieurs dizaines de familles qui se heurtent à des policiers dépassés par le nombre de plaintes pour violences sexuelles dans le périscolaire.
Beaucoup d'enquêteurs vous disent, maître, je suis désolée, on peut pas gérer ces dossiers, on est débordés, on est sur un triple homicide là ou sur un viol incestueux pendant machin. Mais on comprend que c'est pas tout en haut de leur liste de priorités. Et quand ça l'est, ben soit ils savent pas s'y prendre, soit il n'y a pas de moyens.
Un constat que partage une source policière qui admet on n'arrive plus à tenir la cadence au détriment des enfants et de leur famille.
Rima Hassan, convoquée au tribunal en juillet pour apologie de terrorisme, l'eurodéputée insoumise en garde à vue hier pour s'expliquer sur ce tweet qu'elle a depuis supprimé et qui faisait référence à l'auteur d'un attentat à l'aéroport de Tel Aviv en Israël. Une autre procédure va être lancée contre Rima Hassan car de la drogue de synthèse a été retrouvée dans ses affaires, selon le parquet, ce qu'elle réfute.
Quand le prix du carburant décourage même de faire ses courses alimentaires.
C'est la réalité d'un tiers des Français interrogés par l'Institut Montaigne qui se serre la ceinture à cause de la flambée des prix à la pompe. Le sans-plomb 95 dépasse désormais les 2 euros le litre. C'est 2,25 pour le gasoil. Martin Lange à Rennes pour RMC. Des Français qui rognent sur des produits pourtant essentiels.
Martin est retraité, sa pension est d'un peu plus de 1000 euros par mois. Alors forcément, avec la hausse des prix du carburant, elle a réduit ses dépenses.
On économise surtout, hein. La viande, j'en mange déjà pas beaucoup d'avance. Je mange plus de poisson. Je mange beaucoup de légumes, des crêpes. Je fais des choses qui reviennent pas trop cher.
Mais les actifs aussi se serrent la ceinture à l'image de Tiffen.
On fait moins de courses, donc on achète plus des trucs à plus petit prix, quoi. La viande rouge, le poulet. En général, on prend du jambon ou des allumettes, quelque chose comme ça. Pas de la vraie viande, c'est dur quoi.
Autre poste de dépense sur lequel les Français rognent, selon l'étude, les médicaments. Mère d'un enfant handicapé, Christine limite ses allers-retours à la pharmacie.
J'ai l'habitude d'y aller toutes les 3 semaines. Ça faisait un mois et demi que j'y étais pas allée.
Pour faire des économies, Christine évite aussi les sorties.
J'avais encore les moyens d'aller boire mon petit café le matin et le soir. Total, c'est un budget d'environ 3 euros, 3,50 €. Ça paraît débile hein, ce que je dis. Eh ben non, je le fais pas.
Et de soupirer, il faut être marin, pêcheur ou routier pour être aidé. Quand on vit en zone rurale, c'est un enfer.
Et justement, pour vous aider à trouver le carburant le moins cher près de chez vous, rendez-vous sur l'appli RMC et sur le site rmc.fr pour retrouver notre carte interactive des stations-service.
Et oui, la carte, le plein RMC, BFM, c'est pratique. Est-ce que vous vous privez en général? Est-ce que vous avez changé vos plans pour les vacances aussi? On va en parler à 7h40. En gros, les Français partent moins loin, moins longtemps.
Et en ce jour de départ en week-end prolongé et de vacances pour certains, c'est orange dans le sens des départs partout en France, rouge en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Et si vous avez prévu d'aller à Honfleur en Normandie, vous allez devoir adapter un peu votre visite. Une partie de la ville bouclée, notamment son emblématique port, des cordes de cartes postales défigurées car 3 immeubles menacent de s'effondrer. Des habitants et des commerçants ont dû évacuer Lougarnier.
Des routes barrées, une partie du quai bloquée et 19 commerces à proximité du port fermés à cause du risque d'effondrement imminent de 3 bâtiments du centre-ville.
La situation, elle est dramatique pour tout le monde.
Laurence tient un salon doté dans une rue annexe où des barrières empêchent désormais les voitures de circuler.
Ça donne un peu une image de Honfleur en chantier. Beaucoup de barrières qui sont mises, ça arrête certaines personnes et qui ne viennent pas. Et donc, du coup, on se retrouve avec des rues entièrement mortes.
Elle compte sur la mobilisation des touristes pour sauver les commerces alors que les vacances démarrent. Ce soir, une inquiétude que partage le maire Nicolas Pubreuil.
C'était vraiment maintenant le coup d'envoi de la saison. Et donc là, c'est un désastre. La perte d'exploitation, elle est totale, hein, puisque c'est une fermeture jusqu'à nouvel ordre. Ça fait château de cartes. Il faut déconstruire et en même temps permettre aux autres de rester debout.
Il va falloir faire de la dentelle, reconnaît l'élu dans un souffle qui s'attend à des travaux longs et colossaux.
On en sait un peu plus ce matin sur les circonstances de l'attentat déjoué contre la Bank of America la semaine dernière à Paris. 3 adolescents et 1 majeur mis en examen et placés en détention provisoire. Et ce matin, donc, le journal Le Monde révèle des détails sur leur profil et comment ils se sont organisés, Constance Bostoen.
Oui, selon les révélations de nos confrères du Monde, l'un des mineurs raconte qu'un plan lui a été proposé via Snapchat par un commanditaire. Ce dernier lui intime avec deux autres jeunes de venger un ami trompé par sa copine en posant un feu d'artifice en bas de chez elle pour l'intimider. Il explique qu'une fois la mission réalisée, il devait être payé et que si la scène était filmée, il toucherait plus d'argent que prévu, entre 1000 et 1400 euros à se partager à trois. Les adolescents admettent, je cite, « hallucinés » en voyant la taille du colis qu'ils doivent déposer. Ils évoquent leur envie de se retirer de l'opération à ce moment-là. De son côté, le commanditaire présumé assure en garde à vue avoir été lui-même missionné par une personne qu'il ne connaît pas. Il m'a dit que si les petits réussissaient cette mission, il y en aurait plein d'autres, ajoute-t-il, en assurant n'avoir jamais été au courant d'un quelconque projet terroriste.
Et puis Gims, qui vient d'être mis en examen, sort une nouvelle chanson pour lui qui a été mis en examen pour blanchiment aggravé, le chanteur sous contrôle judiciaire. Il vient donc de sortir cette nouvelle chanson. Reste à savoir si, écoutez, les paroles ont un lien avec ses ennuis judiciaires.
Ils vont me mettre aux arrêts.
Ah oui. Ah bah oui. Alors je sais pas quand est-ce qu'il l'a écrit, mais peut-être que ça a un lien. Ça s'appelle Soleil et c'est donc la nouvelle chanson du chanteur Gims.
Aux arrêts, ouais, je dois dire ouais. Qu'on va y voir un lien évidemment. Après c'est toujours pareil, Gims, qu'on aime ou qu'on aime pas, on va l'entendre.
Ah, ça, je vous dire, et ça reste dans la tête.
Et ça va rester dans la tête. Le quintet à Vincennes aujourd'hui, enfin ce soir à 20h15, on est vendredi, Clara.
Ouais, la Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 9, JP de Crépin. L'Outsider, c'est le numéro 4, Initial Hero, le 9 et le 4.
Merci beaucoup Clara Gabillet, 7h37. Autre info ce matin qu'on développe, l'arbitrage avec micro. À partir de ce soir, c'est testé, PSG Toulouse. On va entendre les décisions de l'arbitre en cas d'emploi de la VAR, hein, en cas de pénalty, etc. Vous connaissez la VAR quand vous suivez le foot. Nicolas est en ligne avec nous depuis Fréjus. On a posé la question, le rugby le fait déjà depuis des années. Est-ce que c'est une bonne idée de sonoriser les échanges que peuvent avoir les arbitres avec les joueurs notamment? Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous, bonjour.
Nicolas, vous êtes client de cette expérimentation qui sera faite ce soir?
Oui, je suis client parce que je pense que pour déjà la simple et bonne raison, c'est que ça va défrustrer le téléspectateur, l'auditeur, parce que souvent on comprend pas pourquoi la motivation de l'arbitre s'est orientée sur telle ou telle décision. Et là, je pense que d'avoir au moins son information à lui et sa motivation, bah, je pense que ça va nous calmer tous derrière notre écran ou derrière la radio. Donc je pense que déjà de ce point de vue-là, on est tous d'accord. Après, ça ne veut pas dire qu'on l'approuvera quand même, parce qu'on en reste chauvin avant tout. Mais au moins,
un peu supporter. Mais, voilà, mais non, mais vous dites que ça peut apaiser les choses, quoi.
Ouais, et un autre point aussi, moi, qu'on n'évoque pas assez, c'est que je pense que les joueurs vont peut-être se calmer un petit peu au niveau de leur véhémence vis-à-vis des arbitres. Je crois que on sait lire sur les lèvres parfois, et quand il y a des décisions de la VAR qui sont impliquées, bah ils s'emportent souvent.
Ah, quand ce sera sonorisé, diffusé, voilà, à la télé, voilà, à la radio et dans
exactement.
Le stade. Ouais, vous avez raison,
ils
Nicolas.
Ils auront peur d'aller en commission de discipline et de se taper la honte à justifier qu'ils ont insulté l'arbitre de tous les noms pour une simple décision qui me paraît être voilà banale quand on connaît aujourd'hui la conjoncture actuelle.
Écoutez, et puis, Nicolas, on va écouter en tout cas ce soir sur RMC, vous entendrez les décisions de l'arbitre en cas de VAR, en cas de décision litigieuse à suivre, expérimentation, est-ce qu'il faut le prolonger? On vous posait la question, vous continuez comme Nicolas à réagir ce matin au 32-16, n'hésitez pas, il est 7h39.
RMC, jusqu'à 9h, Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h43, bon réveil à l'écoute d'RMC. Face à l'augmentation des prix des carburants, les Français partent moins et moins loin. À partir de ce soir, c'est le début des vacances de printemps et du week-end de Pâques. Le week-end de Pâques, c'est pour toute la France. Bonjour Corinne Joly.
Bonjour.
Vous êtes la patronne du site Particulier à Particulier. Alors, c'est la première question, bien sûr, la crise des carburants. La hausse des prix, ça a changé les plans des Français?
Oui, en fait, ce qu'on a observé sur notre plateforme PAP Vacances, c'est d'une part une légère baisse des réservations. On est à moins 2% alors que toutes les vacances précédentes avaient plutôt une tendance à la progression. Et puis aussi une évolution des destinations avec des destinations... En fait, on voit que la partie nord du pays va essayer de rester au nord. Donc ça va favoriser la Bretagne et la Normandie pour justement éviter des trajets trop longs et aussi pour réduire les coûts d'hébergement.
Alors, moins 2%, j'arrive pas à mesurer si c'est beaucoup, pas beaucoup. Si je comprends ce que vous nous dites, en réalité, Corinne Joly, c'est que les Français vont partir moins loin, moins longtemps. Ils s'adaptent plus qu'ils ne renoncent.
Exactement. C'est ce qu'on observe la plupart du temps sur les vacances. Et les vacances le permettent parce que, en fait, il y a tellement d'options sur les vacances qu'on peut vraiment faire beaucoup d'optimisation pour réduire son budget. Et donc, très souvent, plutôt que de les sacrifier, On va raccourcir un petit peu, partir plutôt 4 jours plutôt qu'une semaine. On va choisir une destination qui est moins chère. Et là, typiquement, la Normandie et la Bretagne. Si vous habitez dans le nord de la France, non seulement vous allez payer moins en transport parce que c'est plus près, mais vous allez aussi avoir un hébergement qui est moins cher. Et puis, on voit ensuite d'autres types d'adaptations une fois qu'on est sur place. On sait, par exemple, on en a beaucoup parlé ces dernières années, que les Français vont un petit peu moins en restaurant, ou que quand ils vont en restaurant, ils prennent un petit peu moins de dessert, un petit peu moins de boisson. Donc il y a beaucoup d'arbitrage possible finalement pour faire des économies, et c'est toujours ça qui est privilégié plutôt que de sacrifier les vacances, parce que les vacances ça reste aussi un moment en famille.
Bien sûr. Les séjours à l'étranger reculent nettement, Corinne Joly.
Effectivement, alors on voit une baisse de l'Espagne, alors que l'Espagne ces derniers temps ça progressait beaucoup. L'Espagne en fait c'est une forme de concurrence à la Côte d'Azur en moins cher. Mais là, pour le coup, pour une fois, on a une baisse. Alors, les billets d'avion ont augmenté aussi. Ah oui. Et puis, l'Espagne, il y a un certain nombre de personnes qui y allaient en voiture en passant par les Pyrénées, parce qu'en fait, la Costa Brava, c'est très près en fait de la France. Mmh. Et là, du coup, c'est aussi impacté par la hausse du coût de l'essence.
Est-ce que vous avez déjà des éléments sur l'été, Corinne Joly? Est-ce que vous observez déjà des tendances?
Alors, on a déjà, je vais donner des éléments sur mai, parce que là, il y a une petite baisse en avril. En revanche, il y a une progression sur mai. Le mois de mai, il est très favorable au niveau du placement des jours fériés. 1er mai, c'est un vendredi, 8 mai aussi, le 15 mai tombe après, et il y a le lundi de Pentecôte après. Donc, déjà, le mois de mai, on est assez optimiste. Ça va plutôt bien se passer. L'été, c'est encore un peu difficile.
En fait, au lieu de partir une semaine à Pâques, les gens vont se garder des petits week-ends de 3-4 jours, quoi.
Exactement, on va disperser des petits week-ends un peu moins chers, ouais, pour s'aérer, mais de manière un peu plus économique. Pour l'été, vraiment, ce n'est pas joué. En général, à cette période de l'année, il n'y a que la moitié des réservations qui sont faites. Donc là, c'est vraiment, là, on est début avril, c'est vraiment maintenant que tout va se jouer. De avril à juin, le gros des réservations va se faire. Ça va dépendre évidemment des contraintes budgétaires, mais ça va aussi dépendre de la météo du printemps. Ouais. Parce que quand le printemps est maussade, généralement, ce sont les destinations où il y a une garantie d'ensoleillement qui s'en sortent le mieux. À l'inverse, si le printemps est ensoleillé, alors la Bretagne, la Vendée, la Normandie s'en sortiront très bien.
On vous rappellera, Corinne Joly, ça vous le savez, hein, présidente de Particulier à Particulier. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. La zone A commence ses vacances aujourd'hui. Week-end pascal pour toute la France, week-end de 3 jours. Pour trouver la station essence la moins chère, la station service la moins chère près de chez vous, je vous rappelle évidemment le plein RMC et BFM sur l'application RMC. Vous avez toutes les stations service autour de chez vous. Je vous garantis pas un prix bas, je vous garantis la moins chère. C'est tout ce qu'on peut faire. Et après 8h10, vous écouterez Manuel Le Chypre, qui vous promet le gasoil à 3 euros le litre, lui. Ça, c'est encore autre chose, mais ça va vous agacer. 7h47, vous êtes sur RMC, vous réagissez au 32-16 et vous nous dites tiens ce que vous avez prévu pour ce week-end, pour ces vacances. N'hésitez pas, vous serez en direct avec nous.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h49 et avec vous, Élise, le bonus, on va reparler de Céline Dion ce matin.
De Céline Dion et du record absolu qu'elle vient de battre, record d'inscription à la loterie pour sa pré-vente. 9 millions d'inscrits d'après le journal Le Parisien qui cumule les deux sites officiels de cette loterie. C'est tout simplement du jamais vu. Taylor Swift est battue à plate couture. Alors depuis hier soir, 19h, les inscriptions sont closes et c'est là que le plus dur commence. Les équipes qui gèrent la billetterie vont devoir vérifier toutes les inscriptions pour filtrer au maximum les bots, ces robots qui ne sont là que pour alimenter le marché noir. Les premiers gagnants seront contactés lundi prochain et pourront acheter jusqu'à 6 billets. Et une petite lumière quand même au bout du tunnel, si jamais vous n'êtes pas sélectionné pour cette prévente, sachez que selon les informations du Parisien, il y aura 6 nouvelles dates et les malheureux de la prévente seraient même mis sur liste d'attente pour ces nouvelles dates. Il reste donc de l'espoir.
Il reste de l'espoir à Élise d'Angers.
C'est ça, moi, je l'avoue.
RMC, Apolline Matin, le débat.
7h50 sur RMC et RMC Story. Le débat RMC. Des débats houleux ces derniers jours à la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. L'animateur Nagui qui accuse le rapporteur d'être responsable des menaces de mort que lui et sa famille subissent. Xavier Niel, le patron de Free qui s'emporte contre ce cirque, je le cite, assurant qu'il n'est pas un clown. Cécile Duflot, ancienne ministre et voix de gauche d'RMC. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Charles Consigny, avocat, voix de droite. Je vais commencer avec vous Charles. Cette commission, elle va trop loin?
Moi, je ne trouve pas du tout qu'elle aille trop loin. Je pense qu'elle doit aller d'ailleurs encore plus loin. Je propose la nomination de Charles Alloncle comme président de France Télévisions. Moi, je pense que ce serait la seule bonne décision à prendre à l'issue de cette commission d'enquête qui montre à quel point il y avait à regarder dans l'usage qui est fait des deniers publics à France Télévisions. Moi, je dois vous dire que je suis vraiment sidéré de voir à quel point les uns et les autres répugnent à rendre des comptes, à s'expliquer de l'usage qu'ils font des deniers publics. Que ce soit Xavier Niel, qui est quelqu'un que je respecte par ailleurs, qui est un homme d'affaires merveilleux dont on a besoin en France, qui a été extrêmement irrespectueux hier et d'une violence inouïe avec ces deux jeunes députés, qui leur a vraiment montré qui avait le pouvoir entre lui et eux, ce qui n'est pas normal dans une démocratie. Que ce soit ceux qui refusent de donner leur salaire, Nagui qui explique que c'est parce qu'il est égyptien qu'on s'en prendrait à lui. Je trouve que c'est du délire et on remarque que finalement, cette commission, elle était très utile. Donc moi, je pense qu'il faut qu'elle aille encore plus loin. Je pense que tout doit être rendu public. Et je pense qu'il faut généraliser ce type de commission d'enquête à toutes les dépenses publiques.
On va venir sur les commissions en général. Mais Xavier Niel, vous l'évoquiez, qui dit qu'il regrette ce temps perdu, les dizaines de millions d'euros dépensés. C'est pas rien de répondre à la représentation nationale. Est-ce que c'est du temps perdu, Cécile Duflot?
En fait, il s'est passé une espèce de choc hier, vous m'avez dit le thème de ce débat et j'ai reçu l'annonce de la mort de Louis Besson. Et je me suis dit, waouh, Louis Besson, c'est quand même une autre manière de faire de la politique. Et ça vaut pour la droite et pour la gauche, une autre époque. Parce que là, en fait, c'est des parlementaires. Et en fait, le débat, c'est pas de savoir sur quoi ils travaillent, c'est la manière, en fait. C'est cette façon de parler, cette façon de tweeter avant même d'avoir posé des questions, de se mettre en scène en permanence, d'inviter. Et ça vaut d'ailleurs pas que pour cette commission, c'était la même chose avec TikTok. On utilise un outil puissant de la représentation parlementaire, la commission d'enquête, simplement pour obliger des gens plus célèbres que soi à venir et se mettre en scène. Donc en fait, ça fait du mal à la politique. Et même, Charles, si l'objectif, c'est de savoir vraiment où va l'argent public, quelles sont les dépenses, on n'y comprend plus rien. C'est devenu juste un sketch généralisé et ça fait du mal à la politique. Donc oui, ce choc m'a montré à quel point, à une époque, les parlementaires, Louis Besson et d'autres, hein, ça n'est pas du tout une question d'étiquette.
Je le rappelle, Louis Besson, ancien ministre, votre prédécesseur au logement, je crois.
Il y a longtemps, il a été 10 ans député, il a été maire de Chambéry. Et surtout, c'était quelqu'un d'extrêmement calme, qui pouvait débattre, y compris avec des gens de droite, qui pouvait avoir des accords avec des gens de droite. Alors, enfin, une époque où la politique avait quand même une certaine idée d'elle-même. Et moi, c'est l'abaissement du travail parlementaire que cette commission et d'autres commissions parlementaires montrent.
Vous avez, Charles Consigny, salué Charles Alloncle, qui est un des rapporteurs de cette commission, qui était accusé de relayer des fake news hier, de mentir dans cette commission, sachant qu'eux ne sont pas sous serment. Il y a quand même peut-être un petit côté purge, un petit côté on se tape des personnalités.
Non mais Charles Alloncle, il fait un travail salutaire, d'ailleurs il est bien seul à le faire et je vois qu'il y a tout un système qui se met en branle pour l'abattre, les uns et les autres, il y a ceux qui sont puissants, ceux qui cirent les pompes des puissants, c'est un truc habituel et déplorable. Moi ce que je remarque c'est que tous ces jet-setters du service public, il n'y en a pas un qui a accepté de donner le montant de sa rémunération. Je veux dire, on sait combien gagne un gendarme, on sait combien gagne un médecin urgent. Je vois pas pourquoi on saurait pas combien gagne un présentateur sur France Télévisions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est nous qui payons. Il y a un moment, il faut arrêter le délire. C'est encore pire d'ailleurs pour ceux qui s'abritent derrière le fait qu'ils ne seraient pas salariés directement du groupe public, mais salariés d'une boîte de production qui facture ses prestations au groupe public.
Oui, c'était le cas,
mais
si on parlait de
Mais c'est une Nagui, honte. Nagui, moi, etc. Quand j'ai travaillé à France Télévisions, à France 2, chez On n'est pas couché, présenté par Ruquier, j'ai donné le montant de mon salaire au premier journaliste qui me l'a demandé. Je veux dire, je ne serais pas vu une seconde rétorquer que je n'étais pas salarié de France Télé, mais d'une boîte de prod. Alors, donc attendez, ça suffit. Et enfin, ces gens qui en plus se planquent derrière la notion de service public en faisant comme s'ils accomplissaient une mission sainte d'intérêt général et que donc ils seraient inattaquables, il y a un moment, ça va. C'est pas des infirmières de nuit dans des EHPAD publics. Ce sont des jet-setters de la gauche caviar qui n'ont pas l'habitude de rendre des comptes et ça leur fait mal. C'est normal.
Le le travail, et pour le coup, on parle d'argent public, des impôts des Français. C'est pas absurde en fait, d'avoir des députés qui posent des questions.
Pas du tout. Je pense que c'est même très important. Le Parlement, il vote les lois et il contrôle l'action publique et il peut même faire le bilan et l'évaluation des politiques publiques. Il est parfaitement dans son rôle. Mais justement, après, Charles, il fait ce qu'il fait très bien. C'est-à-dire, il fait son sketch à la télé.
Non,
et
c'est
en
pas
fait,
un sketch.
En vrai, Charles
Arrête avec ça, Cécile. C'est ni un sketch pour moi, ni un sketch pour Alloncle, ni un sketch pour moi. Moi, je dis ce que je pense. Le sketch, c'est Xavier Niel hier. Ça, c'était un sketch.
Donc,
une fausse colère, une violence insupportable. Ça, c'était un sketch. Et le sketch, c'est toute cette gauche caviar qui s'entortille parce qu'elle a les doigts dans le pot de confiture.
Donc, je redis, si c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet sur la manière dont l'argent public est dépensé, on peut rester très calme quand on est parlementaire, aller au fond des choses. C'est pas du tout ce qui est fait. Et Charles Alloncle, on sent qu'il est frustré de pas être célèbre. Et d'ailleurs, je l'accable pas. C'est le cas de beaucoup de députés. C'est ça le problème, Mathieu. C'est que le problème, c'est que les parlementaires, là, avec un parlement un peu impuissant, un président qui veut tout décider tout seul, ils sont frustrés. Donc, comment ils peuvent exister? En faisant des petits coups, en faisant des petites interventions, en expliquant, en faisant des petites phrases, des TikTok. Et en fait, on a poussé ce système jusqu'au bout. Mais du coup, on affaiblit la capacité même, justement, du travail d'enquête. Typiquement, quand on s'attaque à un certain nombre de personnes, quand on invite des personnalités célèbres, et je vais vous dire une chose, j'ai regardé...
Ah oui, les célébrités, faut pas y toucher.
Non, pas du tout. Mais la commission parlementaire, quand il y a les directeurs de l'information de France Télévisions, c'est très important pour le coup de savoir comment le service public traite l'information. Il y a une poignée de députés dans la salle. Patrick Sébastien arrive, ils sont 40.
Oui, mais le rapporteur, il est là quand même quand il y a les directeurs de l'info.
Mais c'est ça le but.
Ça me fait penser aux hommes politiques de droite qui, quand ils sont mis en cause par la justice, mettent en cause les juges. C'est exactement le même système de défense.
Je défends l'Assemblée.
Vous l'avez peut-être suivi d'ailleurs. Dites-nous sur le WhatsApp RMC ou au 3216 ce que vous pensez de ces débats qu'on voit à l'Assemblée nationale. On mettra pas Charles et Cécile d'accord ce matin. Merci à tous les deux. Lundi à la même heure, on retrouve Louis Sarkozy, l'autre voix de droite d'RMC. À suivre le journal de 8h. Emmanuel Le Chip, week-end à haut risque, nous dit Emmanuel Le Chip.
Oui, parce que de plus en plus de stations vont connaître des pénuries. Et puis le plus inquiétant, c'est que les prix s'envolent, notamment sur les marchés européens du carburant. Et le diesel à 3 euros le litre, ce sera bientôt plus une fiction.
Il est 7h57. Très bon réveil quand même.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. Vous allez voir que de nombreux Français changent leur plan pour le week-end de Pâques et les vacances qui commencent avec l'envolée notamment des carburants. On va vous expliquer dans ce journal pourquoi la préfecture de Paris annule un événement, la rencontre des musulmans de France qui était prévue tout ce week-end au Bourget. Et puis on va revenir évidemment sur la grande nouveauté du jour en football. On entendra ce soir l'arbitre du match entre Paris et Toulouse.
Le week-end de Pâques n'aura jamais coûté aussi cher cette année.
Oui, alors déjà, il y a le prix du chocolat qui est en hausse de 4%, alors que les cours du cacao ont chuté depuis la violente hausse des dernières années. Et puis, il y a bien sûr les prix des carburants pour tous ceux qui vont prendre la route. À 2,25€ le litre de diesel et désormais 2€ pour l'essence. Certains sont obligés de revoir leur plan, nous dit Nicolas Ginestière pour RMC.
Patrick vient de faire le plein sur le cadran, un montant à trois chiffres.
103€, ça fait quelques mois, voire quelques années que je n'avais pas dépassé les 100€.
Facture salée pour l'entrepreneur à la veille d'un séjour en Normandie qu'il a songé à annuler.
Je serais accompagné, mais je pense que si j'avais été tout seul, en raison du coût du carburant, je ne serais pas parti.
Dernier plein de gasoil pour Sophie avant des vacances, en Bretagne, à 600 km de chez elle.
Beaucoup de dépenses, d'essence à venir, mais c'est un choix de pouvoir partir en vacances et de voir la famille.
Un choix coûteux. Il faudra ruser pour économiser.
Pas de resto. Et puis sur les petits trajets, si possible, on les fait à pied ou en vélo ou en transport. Pourvu que ça s'arrête de monter.
Carlos, lui, regarde déjà vers l'été avec inquiétude.
On se pose déjà des questions, parce que c'est les grandes vacances au mois d'août. En plus, moi, il faut que je traverse la France, l'Espagne, pour le Portugal. Donc c'est compliqué.
2300 km à parcourir. Il ne prévoit pas pour l'instant d'y renoncer.
Alors l'essence, tiens, j'ai regardé l'essence qui se vend moins d'1,50€ à la frontière espagnole, là encore ce matin. La tendance est au trajet moins long, ça c'est ce que vient de dire sur RMC la présidente du site internet PAP. Il y a toujours notre carte interactive avec les prix des carburants sur le site et sur l'application RMC, ça vous le savez. Mais l'écart donc quand même de 50 centimes avec la France, où deux acteurs de la grande distribution demandent aux raffineurs de renier sur leurs marges qui ont quadruplé depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, à Victor Joannin.
Oui, les distributeurs demandent aux 6 raffineries de France de faire un effort pour soulager le portefeuille des Français, puisque la marge brute de raffinage en mars s'est élevée à 13,7 centimes par litre, selon l'indicateur de la Direction Générale de l'Énergie, et c'est 4 fois plus qu'avant le conflit, premier visé Total, puisque ces 3 raffineries représentent la moitié des capacités de raffinage. À Bercy, on dit refuser d'opposer les acteurs les uns aux autres, mais le pétrolier et ses 11 milliards de bénéfices mondiaux l'année dernière se défend. Il rappelle que le raffinage est peu rentable, voire déficitaire, 300 millions d'euros de pertes l'année dernière pour cette activité en France, et que ses bénéfices éventuels sont notamment réinvestis dans la décarbonation de ses installations.
Et voilà dans quel contexte le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir là ce vendredi pour voter, alors pour ou contre on verra ça, mais pour un déblocage par la force du fameux détroit d'Ormuz. L'Iran met déjà en garde, la France est contre.
Alors ça c'est pour le détroit d'Ormuz, mais vous, ce week-end de Pâques, vous allez où ? Est-ce que vous avez changé vos plans ? Dites-le nous, la zone A qui est en vacances à partir d'aujourd'hui, moins loin, moins longtemps, comme le disait la patronne de PAP tout à l'heure, dites-le nous au 32-16, dites-nous aussi, comme dit l'Institut Montaigne, si vous rognez sur des achats alimentaires, de médicaments même, depuis la hausse des prix du carburant.
Cette guerre a aussi des conséquences sur notre sécurité nationale, selon les mots du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui évoque une nouvelle forme de terrorisme en lien avec cette guerre. Consigne a été donnée au préfet pour le week-end de Pâques, vous en doutez, de renforcer la sécurité aux abords des lieux de culte. Et alors la préfecture de police de Paris a pris la décision d'annuler la rencontre des musulmans de France qui était prévue à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi au Bourget. Luc Allobert, ça mérite des explications pour RMC. L'argument avancé, c'est le risque d'attaque visant la communauté musulmane.
Oui, d'abord, la préfecture de police explique que l'événement dans ce contexte international tendu est exposé à un important risque terroriste, et ce, contre la communauté musulmane. Le contexte politique national, lui aussi, est agité, peut-on lire dans l'arrêté, en démontrent les récentes élections municipales. Selon le préfet de police, des groupuscules d'ultra-droite pourraient se mobiliser pour perturber l'événement et y mener des actions de propagande. Des actions téléguidées par des influences étrangères pourraient également être menées. De son côté, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, interrogé par Le Parisien, évoque des liens entre les frères musulmans et la structure organisatrice. Selon l'avocat des organisateurs, les motifs avancés par la préfecture de police, comme le besoin de protéger la communauté musulmane, ne sont que pure forme et ne tromperont personne, argumente-t-il.
Nouvelle réaction ce matin, le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, dénonce dans le journal Le Parisien un acharnement judiciaire et politique à l'égard de l'eurodéputé LFI Rima Hassan, qui a passé la journée d'hier en garde à vue à Paris pour apologie du terrorisme après un message publié sur les réseaux sociaux et qui sera jugé pour ça le 7 juillet prochain. Il avait dit que ce serait sa première mesure. Vous en souvenez certainement, le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, annonce ce matin dans le journal Le Monde son plan d'action à 20 millions d'euros pour une transparence totale, ce sont ses mots, dans le scandale des agressions sexuelles dans le périscolaire dans la capitale. Il promet une chaîne de signalement simple, accessible et des suspensions d'animateurs au moindre soupçon. 30 l'ont été l'année dernière. Les agriculteurs sont à nouveau pointés du doigt ce matin. Ça se passe dans la région de La Rochelle, où des familles s'interrogent depuis des années sur la hausse inexpliquée des cancers pédiatriques chez leurs enfants. Et leur regard se tourne vers les pratiques des agriculteurs. Une enquête est d'ailleurs ouverte depuis l'année dernière. Et alors, c'est une information RMC ce matin. Des perquisitions ont eu lieu durant la semaine dans une dizaine d'exploitations agricoles. Et Louis Salé, vous qui nous révélez cette information, des pesticides interdits y ont été retrouvés en petite quantité.
Oui, et des analyses sont toujours en cours pour déterminer avec précision ce que contiennent les bidons saisis dans les fermes. En 2024, des prélèvements avaient été effectués sur 72 enfants de la plaine d'Aunis et des pesticides avaient été retrouvés, dont l'acétamipride interdit depuis 2018. L'enquête judiciaire cherche donc à savoir si les agriculteurs ont utilisé des produits interdits. Cédric Trancard de la FNSEA n'y croit pas une seconde. Il préside la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime.
Dans mon intime conviction, je continue à être persuadé que non. Il n'y a pas ça chez nous. Ça peut être du PPNU, du produit phyto non utilisable, qu'on peut avoir en attendant que ça soit mis à la destruction. C'est légal de les détenir, mais on n'a pas le droit de les utiliser. Je peux vous jurer qu'on ne va pas laisser ça comme ça. Il va y avoir des plaintes pour diffamation et pour attaque non justifiée, hein. Ça c'est sûr de toute façon.
De leur côté, les familles qui ont porté plainte gardent le silence. Elles ont peur et décrivent une atmosphère extrêmement tendue avec les agriculteurs.
Bon, alors c'est une grande nouveauté à laquelle on va assister ce soir en football lors du match entre Paris et Toulouse en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. L'arbitre du match sera équipé d'un micro. pour que le grand public entende ces décisions. Ça se fait déjà en rugby où on a l'habitude déjà d'entendre les arbitres à la télé et même depuis cette saison dans les enceintes des stades pour expliquer les décisions importantes.
Vous tendez la jambe délibérément dans le visage, carton rouge.
Voilà comment ça se passe en rugby. Ça, c'était un cas emblématique du début de saison entre Pau et La Rochelle sur la chaîne Canal.
C'est vrai qu'au foot, il y a moins de jambes dans les visages. Ah, bon,
ça peut arriver. Hein. Bon, et le foot donc va s'y mettre ce soir au Parc des Princes, Xavier Grimaud.
Oui, c'est un dispositif sur la table depuis 2 ans qui va voir le jour avec un personnage central, Éric Vatelier. L'arbitre de la rencontre sera équipé d'un micro qui pourra lui permettre, en cas de situation litigieuse nécessitant un recours à l'arbitrage vidéo, d'expliquer son choix directement aux spectateurs dans le stade et aux téléspectateurs regardant le match. Anthony Gauthier est le directeur de l'arbitrage français.
Moi, ce qui m'anime, c'est de pouvoir offrir la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent de comprendre toujours davantage l'arbitrage. Ce dispositif doit contribuer au fait d'avoir une ouverture toujours plus importante et une possibilité de pédagogie auprès du grand public.
Le but est donc d'amener de la transparence. Pour l'entraîneur du Stade Rennais Francaise, ce test grandeur nature va dans le bon sens.
Tout ce qui est pédagogique et met du sens, évidemment une très bonne chose. Moi, en tant qu'entraîneur, j'attends ça parce que c'est super intéressant. Et en plus, ça montre aussi toute la difficulté. En peu de temps, de prendre des décisions, tout ce qui permet de parler, d'échanger, ça va toujours dans le bon sens.
Et cette première sonorisation ce soir sera scrutée de près avec l'idée, en cas de retour positif, de l'élargir à partir de la saison prochaine à l'ensemble des rencontres.
Bah tiens, puisqu'on parle de rugby, il y a les huitièmes de finale de Coupe d'Europe là, tout ce week-end. Ça commence ce soir avec Castres chez les Anglais, Northampton, finaliste la saison dernière. On vivra ça évidemment tout le week-end sur RMC.
Merci beaucoup, Quentin Vinet. C'était le journal. Il est 8h09 et c'est l'heure de parler économie et carburant.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Le Chypre. Rebonjour, Emmanuel.
Rebonjour.
Faut-il craindre des pénuries dans les stations-service ce week-end?
Bah, malheureusement, les conditions d'un scénario compliqué sont en train de se mettre en place pour ce week-end de Pâques. La situation est critique dans les stations Total, qui se sont fait dévaliser avec leur offre à 1,99€ le litre de sans-plomb 95 et 2,09€ le litre de gazole. Résultat, sur les 14% de stations qui connaissent aujourd'hui au moins une pénurie, eh bien la majorité sont des stations Total. Et il va y en avoir de plus en plus parce que, à part quelques livraisons samedi matin, eh bien, il est très peu probable que les stations soient ravitaillées pendant le week-end. On a aussi les autres stations, vous allez me dire, les autres distributeurs. S'il n'y a pas de carburant chez Total, on peut aller ailleurs. Oui, sauf que ces autres distributeurs qui ont perdu 20% de leur chiffre d'affaires, qui ont des trésoreries à sec, eh bien, ils n'ont pas beaucoup stocké au cours des derniers temps. Donc aujourd'hui, ils ont des niveaux de réserves qui sont inférieurs à la moyenne. Donc il est possible aussi que les pénuries touchent des stations qui ne sont pas des stations totales, ça veut dire qu'à la fin du week-end, on pourrait avoir jusqu'à 20% des stations qui connaissent au moins
avec
une pénurie.
Ce qu'on imagine et ce qu'on connaît de files d'attente, etc. Là, c'est le début du week-end de Pâques, week-end de 3 jours pour beaucoup. Il y a la zone A qui est en vacances. Et dans ce contexte-là, Emmanuel, conséquence, hein, quelque part, vous voyez les prix continuer à grimper.
Alors les prix vont continuer à grimper effectivement pour deux raisons. Hein. Bah, la première, c'est qu'effectivement, s'il y a pénurie, vous pensez bien que les stations-service et les distributeurs vont en profiter pour essayer d'augmenter leurs marges. Mais c'est pas ça qui est le plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'est ce qui se passe sur les marchés mondiaux des carburants. Parce que on est tous là à scruter le prix du pétrole sur les marchés. On ne parle toujours que des prix du pétrole. Mais ce qu'on met, nous, dans nos voitures, pas du pétrole, c'est des carburants. Et il y a un marché des carburants. C'est le fameux indice Platts qui le donne. Et quand vous regardez le marché mondial du gazole, ça donne froid dans le dos. Sur le marché londonien, on était à 75 cents, puisqu'on parle en dollars, 75 cents le litre avant la guerre. Le 25 mars, donc c'était il n'y a pas longtemps, on était déjà à 1,18€. Le 1er avril, c'était il y a 3 jours, on était à 1,35€.
Ça explose, quoi.
Aujourd'hui, on est à plus de 1,50€. Plus de 1,50, ça veut dire que depuis le début de la guerre, le prix du diesel sur le marché mondial a doublé. Ça veut dire que on va manifestement aller vers des prix qui montent et il n'est pas improbable qu'on voit des stations-service afficher 3€ le litre.
3€.
3€ le litre de diesel. Il y a déjà des stations en France où vous êtes. Alors là,
j'ai vu un 2,97, moi, record à battre.
Déjà, oui, mais vous voyez, on est à 2,97
au tout début de la guerre.
Eh ben 2,97, on y est déjà. Eh ben moi, je peux vous dire qu'il y aura sans doute de plus en plus de stations qui afficheront le diesel à 3€ le litre dans les jours, voire les semaines qui viennent.
3€, c'est glaçant. Hein. Moi, je vous ai lu cette nuit, hein, avant que vous le disiez à l'antenne, c'est glaçant. Si on s'imagine que ça peut tourner, que ça peut fonctionner tout ça, avec des totems qui affichent 3€ le litre de gazole, Je pense qu'il y en a deux, trois qui sont en train de serrer les dents et de s'énerver dans leur voiture. Merci beaucoup. Et tiens, les prix du jour quand même, avant de parler des prix de...
Alors, les prix du jour, en moyenne, pour le moment, sur le gazole, on est encore à 2,25. Hein, on était à 2,17 en début de semaine. Sur le sans-plomb 95, on est à 2 euros. C'est à peu près stable sur les derniers jours. Bon, on était quand même à 1,97 il y a quelques jours. Le pétrole, ça monte, ça baisse dans un étroit couloir. Cette semaine, on est entre 100 et 110. On fait le yo-yo cette semaine. Là, on était à 108 euros, 108 dollars et 80 cents. Et puis le gaz, ça baisse bien. Par contre, ça, c'est la bonne nouvelle. Non, mais le gaz, on est à 50 euros le mégawattheure. Hier, on était à 54 et on a eu un pic à 61 le 19 mars. Mais depuis, les prix du gaz se détendent. C'est pas une mauvaise nouvelle.
Merci. Oui, non, on va prendre. Hein. On prend les bonnes nouvelles. Et puis on prend aussi le plein RMC BFM, l'application RMC. Vous savez, on n'est pas des politiques ici. Hein. Je ne vais pas vous promettre le gasoil pas cher. Je vais vous promettre le moins cher autour de vous. Grâce à l'application RMC, vous voyez toutes les stations-service recensées, répertoriées autour de vous. Où que vous soyez en France, vous téléchargez l'appli RMC. Elle va vous servir pendant ce week-end de Pâques. Et pendant les vacances peut-être, si vous en avez. 8h13 sur RMC. Dans un instant, Arnaud Demange qui nous rejoint bien sûr. 8h30, le face-à-face sur RMC BFM TV. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Juste après la semaine face à Canteloup, Nicolas Canteloup qu'on retrouve à 8h50. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16 sur RMC, RMC Story. Arnaud Demange est avec nous.
Et oui, bonjour. Bonjour à tous. Et joyeuse Pâques en avance.
Oui.
Ce week-end, Mathieu, c'est Pâques. Toute la France est en vigilance vomi. Les enfants vont dégoupiller du chocolat partout. Les enfants vont faire la traditionnelle chasse aux œufs. Ils vont être là. Oh, celui-là, il est super gros. Allez, on l'attrape. Non, mais laissez-moi, je ne suis pas un œuf. Je suis Eric Ciotti, le maire de Nice. Oh, je savais que j'aurais pas dû me promener dans l'herbe. Non, je déconne. Les enfants vont pas courir après Eric Ciotti. Il y a pas d'enfants à Nice. Oh. D'ailleurs, là-bas, personne ne peut courir. C'est pour ça qu'il a été élu maire. C'est pour avoir la paix. Avant de parler politique, je vous emmène en Suisse, où la douane a démantelé un trafic illégal de frites.
Oh.
Si, un trafic illégal de frites surgelées, plus de 3 tonnes ont été saisies. C'est curieux d'avoir voulu voler des frites à la Suisse, parce que là-bas, il y a de l'or, il y a des montres, il y a des véhicules de luxe, et les gars, ils se sont dit, allez, des patates. Alors, j'ai appris que les voleurs étaient irakiens, peut-être qu'ils maîtrisent pas totalement la langue. Ils ont demandé à leur patron, qu'est-ce qu'on doit voler?
Sans patates!
Et ils sont touchés. Sans patates.
Sans patates.
En tout cas, il y a un trafic de frites en Suisse. Ça, c'est vraiment l'actu d'un pays qui est pas concerné par la guerre, hein. Quand la douane fouille des sacs suisses, il y a jamais rien de compromettant dedans. C'est pas le sac de Rima Hassan. Normalement, tu t'ennuies quand t'es douanier suisse. Et là, trafic de frites, je suis sûr que c'est le highlight de la carrière du douanier.
Ouais.
Il va le raconter jusqu'à la retraite. Et là, c'est le jackpot. Le gars, il transportait 3 tonnes de frites, 100 kilos de mayonnaise, 185 kilos de poulet, 75 kilos de ketchup et en camion. Ouais, en fait, t'as arrêté un food truck, en fait. Ah ouais, peut-être.
Bon, dans la tribune dimanche, Arnaud, près de 100 personnalités de droite et du centre réclament une candidature unique en 2027.
Ouais, la leur. Chacun, ils sont là.
C'est moi! C'est moi!
Alors, il y a pas mal de candidats de droite sur la ligne de départ. Hein. C'est le Marathon de Paris. Wauquiez, Retailleau, Philippe, Attal, Darmanin, De Villepin, Barnier, Castex, Braun-Pivet, Berger, Bertrand, Lisnard, Patrick Sébastien, Cyril Hanouna. Moi, je dis qu'il manque quelqu'un. André Santini, qui, fort de sa victoire à 85 ans à Issy-les-Moulineaux, a déclaré. Quand il bip 3 fois comme ça, c'est qu'il est motivé. Alors le favori des sondages, c'est Édouard Philippe, qui serait le seul à pouvoir battre Jordan Bardella au second tour. Bon, après, on sait que les sondages sont pas très fiables. Hein. Les sondages disent aussi que Macron est à 25% d'opinion favorable. Donc, une personne sur 4 dans votre entourage kiffe Macron. Je vous propose de vérifier chez vous, poser la question.
Ça va être un jeu du week-end.
On va s'amuser à Pâques. Édouard Philippe, à chaque fois qu'on va lui rappeler dans les débats, vous êtes resté 3 ans à Matignon, vous êtes l'hérité de la Macronie, il va sortir une photo de lui à l'époque en disant « Non, c'est faux, regardez cette photo. Je n'ai rien à voir avec cet homme. Il s'est fait passer pour moi pendant des années. Malinx, le lynx. »
Et oui. Et puis aujourd'hui, c'est un événement un peu exceptionnel.
Oui. Hier, c'était les 1 an de RMC Gold. Ouais. Et bien, on reste dans le thème, puisqu'aujourd'hui, nous fêtons les 60 ans d'Emmanuel
Macron. Oh mon Dieu!
Emmanuel qui s'est pointé sans s'en douter. Oui, c'est vrai.
Mais c'est, oui, c'est vrai.
Son anniversaire.
Bah, oui, c'est vrai.
Mais alors, vous arrivez comme ça avec votre gazole à 3 euros et vous dites pas l'essentiel. Bah,
c'est son c'est anniversaire.
C'est pas un chouette cadeau.
60. Ah non, on vous aurait offert un plein.
Vous les faites pas.
Bah, c'est sympa. C'est sympa. Et c'est les rondeurs.
Et il s'est pointé sans s'en douter à BFM Business pour sa chronique.
Salut tout le monde. Hello, les gars. Quoi? Y a personne. Edwige. Edwige. Moumoun. Et là. Qui c'est ça?
Oui, bonjour, j'ai une livraison pour Monsieur Le Chypre. C'est un gâteau en forme d'Angela Merkel.
Ah ouais.
Oh, à livrer à BFM Business.
Oh, les salauds, ils y ont pensé. Oh, je vais pouvoir me taper une Merkel à la chantilly.
Oh.
Comme pendant mon Erasmus. Ça fera la deuxième fois. Comme après notre soirée au congrès de la Bourse de Francfort en 82. Oh, les souvenirs. Dites donc, quel beau gâteau.
Bon anniversaire, Choubidou!
Oh non! Moumoun, t'étais caché dans le gâteau, j'avais pas vu. Edwige Chevrillon et Angela Merkel dans la chantilly et dans la même soirée.
Oh, mon
comme
Dieu.
Pendant mon Erasmus. Dis donc, Moumoun, très jolie dans ta robe de Marilyn.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Attendez, les larmes aux yeux.
Happy birthday to you, Mr. Pré-retrait.
Non.
J'espère que tu as bien pensé à mettre à jour tous tes trimestres de cotisation. Si tu veux, ce soir, je peux mettre la tenue de comptable que tu aimes bien.
Oh.
Et on peut faire toute la partie administrative de ton relevé de carrière. Je vais imprimer les documents en allemand.
Coquine.
Oh, Kevin est là aussi.
Mon fils.
Bon anniversaire, papa. J'ai un cadeau pour toi. J'hésitais entre un costume Vuitton, une Lamborghini. Finalement, j'ai pris du pâté et des œufs mayonnaise.
Oh, des œufs mayonnaise.
Il me connaît bien.
Et on a organisé une fête des économistes.
Oh.
Tu sais qui va faire le DJ? L'économiste de gauche, Gabriel Zucman, le gars qui zouk.
J'avais oublié ça.
Bah oui, il fallait. C'est la fête. C'est la fête. Bon anniversaire, Manu.
Merci.
Bon anniversaire, mon camarade,
merci
mon ami.
Beaucoup.
Mais ouais, bon anniversaire.
Mais merci à tous, merci beaucoup.
C'était ça bien ce week-end de Pâques?
Comptez sur moi.
Il y aura du chocolat?
Entre autres.
Il y aura de l'agneau?
Il y aura de l'agneau.
Quand même.
Et beaucoup de cochons.
C'est tout pour moi. 8h22, Arnaud Demange, qu'on retrouve tous les jours et même en podcast quand on veut. En tournée dans toutes les villes, les grandes et les petites villes. Alors on va citer Morières, les Avignon, Le Garric, Rennes, Frémin, Merlebach.
Merlebach.
Comme ça qu'on prononce.
La Lorraine.
Épinal, Nice ou Orange. Un spectacle. RMC. Bien entendu. 8h23, dans un instant, le face-à-face, Laurent Nunez sur RMC et BFM TV.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clara Gabillet.
Elle a donc rendez-vous avec la justice en juillet. Rima Hassan, convoquée au tribunal pour apologie du terrorisme après sa garde à vue hier pour s'expliquer sur un de ses tweets. Par ailleurs, une autre procédure va être lancée contre l'eurodéputée insoumise car de la drogue de synthèse a été retrouvée dans ses affaires selon le parquet, ce qu'elle réfute. L'Iran met en garde le Conseil de sécurité de l'ONU contre toute action provocatrice. C'est ce matin qu'il vote un projet de résolution pour la réouverture du détroit d'Ormuz, passage très stratégique encore bloqué par l'Iran. Le trafic du RER A interrompu jusqu'à midi en région parisienne entre Marne-la-Vallée et Bussy-Saint-Georges à cause d'une rupture de caténaire. Et puis du monde sur la route aujourd'hui, début de week-end prolongé et de vacances pour la zone A. Bison futé voit orange partout en France dans le sens des départs et rouge en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. La météo, un temps encore souvent gris aujourd'hui avec parfois quelques pluies faibles. Les températures un peu juste au nord, mais ce sera plus doux dans le sud cet après-midi, de 12 degrés à Rouen, 14 degrés à Paris, Brest et La Rochelle, jusqu'à 22 degrés à Montpellier.
C'était le rappel des titres de Clara Gabillet. Dans un instant sur RMC, l'invité du face-à-face, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Marie Chantrey.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Nunez.
Bonjour.
Vous êtes évidemment le ministre de l'Intérieur. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce matin. Énormément de sujets à aborder avec vous. Mais d'abord, cette garde à vue de Rima Hassan, l'eurodéputée sortie libre hier soir après près de 15 heures d'audition. Elle sera jugée, on l'a appris par le parquet, devant le tribunal correctionnel en juillet prochain pour apologie du terrorisme commise en ligne. Vous avez vous-même fait un signalement après ce tweet. Beaucoup d'insoumis se sont indignés de cette garde à vue, dont le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui parle de police politique. Vous êtes directement visé. Que lui répondez-vous ce matin ?
Non, ma réponse est que nous sommes dans un état de droit. Il y a des règles qui s'appliquent. Voilà, il y a une justice qui passe. Quand un député européen, publie un tweet tel que celui qui avait été publié, on a considéré que c'était de l'apologie du terrorisme, et c'était normal de faire ce signalement. On pouvait pas faire référence à un homme qui a été un terroriste, qui a été condamné pour avoir tué des personnes. Voilà, donc oui, ça s'appelle de l'apologie du terrorisme, et donc c'était normal de faire ce signalement. Après, moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur les suites qui ont été données par la justice. Il y a le parquet qui a communiqué et qui, je le comprends, a bien poursuivi pour apologie du terrorisme. Ça veut dire que les services, l'analyse des services qui étaient les miens était la bonne. Voilà, j'ai pas d'autres commentaires à faire.
Et c'est normal. On le fait systématiquement, vous savez. Persécution judiciaire, encore Manuel Bompard ce matin. Vous dites état de droit, encore une fois. La justice.
L'action politique, elle doit rester dans les limites de l'état de droit. Voilà, il y a des règles à respecter. L'apologie du terrorisme, c'est une infraction qui est très grave et qui a été poursuivie à ce titre.
J'entends votre grande prudence. Une garde à vue aussi, monsieur le ministre de l'Intérieur, qui a vu aussi la fouille de ses effets personnels, de son sac, comme le veut la procédure, et dans le sac de Rima Hassan, des matières s'apparentant à du CBD, mais également d'autre part à de la 3-MMC, une drogue de synthèse a été retrouvée. Ça aussi, ça a été confirmé par le parquet, des éléments que dément la principale intéressée Rima Hassan, qui parle de CBD, mais uniquement utilisé à des fins médicales. Sur ce point précis, Laurent Nunez, avez-vous des éléments à nous donner ce matin ?
Non, tout ça relève de l'enquête. Voilà, moi, je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Je regarde d'ailleurs qu'il y a eu des fuites. Hein. Je comprends qu'il y a eu quelques fuites avant que le parquet ne s'exprime. Il n'y a que le parquet qui peut s'exprimer sur ces sujets.
Et sur ce sujet, le parquet a confirmé
voilà,
ces éléments.
Voilà, je n'ai pas de commentaire à faire. Je ne suis pas en charge de la procédure judiciaire.
Et là encore, vous êtes prise à partie, à l'instar du garde des Sceaux Gérald Darmanin, notamment par Jean-Luc Mélenchon, qui dit « La police laisse faire un traquenard à Lyon », faisant référence évidemment à la mort de Quentin Dérenque. Les juges laissent des centaines de messages racistes, mais une députée est en garde à vue et des pseudo-infos sur la drogue circulent. Manuel Bompard, encore une fois, il demande à ce que vous diligentiez immédiatement des enquêtes internes pour sanctionner les responsables de ces fuites et de ces pratiques et mettre un terme.
On poursuit tout type d'infraction, tout type de délit. On ne laisse pas se déverser des centaines d'attaques racistes. Voilà, on répond toujours par la justice.
Sur ce point,
on saisit toujours la justice. Voilà. Sur les fuites dont il parle, ça c'est mon problème. Voilà,
et vous pourriez diligenter des enquêtes sur ces fuites ?
On n'en est pas là pour l'instant. Voilà, je veux redire qu'il y a eu un tweet de Mme Rima Hassan qui est grave, que je condamne, pour lequel on a saisi la justice. Et c'est normal, et c'est pas de la justice politique, c'est normal. Personne n'est au-dessus des lois, surtout sur des sujets aussi graves. Il
n'y
a pas d'acharnement.
Oui.
Sur des sujets aussi graves que le terrorisme, évidemment l'apologie en l'occurrence du terrorisme, je crois qu'il ne faut pas faiblir, c'est tout. Voilà, il ne faut rien laisser passer. C'est tout ce que je peux dire ce matin. La justice a été saisie et elle est au travail. Voilà, Madame Rima Hassan était en garde à vue hier. C'est ce que j'ai vu dans la communication du parquet. On va rester attentif à tous ces sujets, toujours, tout le temps.
Et on entend votre grande prudence ce matin concernant aussi cette possession de drogue confirmée par le parquet. Pour le moment, pas de commentaire plus précis de votre part ou de confirmation.
Non, je ne fais pas de commentaire. Si c'était le cas, c'est ce qu'on appelle une procédure incidente. C'était pas l'objet principal. L'objet principal, c'était ce délit d'apologie du terrorisme qui, je le comprends, est poursuivi au final.
Absolument. Et pour être tout à fait complet, elle dément ces informations et donnera normalement une conférence de presse dans l'après-midi. Laurent Nunez, plus d'un mois de conflit au Moyen-Orient et évidemment ces risques d'importation sur notre territoire. Un attentat joué en fin de semaine dernière devant une banque américaine à Paris. On a appris aussi hier que la banque Goldman Sachs était placée sous surveillance à Paris également. Et cette information qui, j'avoue, quand je l'ai lue ce matin, m'a un peu interpellée. La banque américaine, la Citi, a indiqué à certains de ses salariés de se mettre en télétravail. Je dois avouer que je me suis dit, est-ce qu'on renonce ? Est-ce qu'on cède finalement à la peur ? Ou vous incitez ce type de pratique pour ces entreprises américaines notamment ?
D'abord, la menace, toujours la même, hein, c'est celle dont j'ai parlé depuis plusieurs jours. Le procureur national antiterroriste en a encore parlé ce matin sur une autre chaîne d'information. Elle est là parce qu'on sait qu'un certain nombre de services iraniens peuvent agir par intermédiaire de proxy pour atteindre des intérêts américains, des intérêts juifs aussi.
Des proxys, des intermédiaires.
Des intermédiaires qui sont des délinquants de droit commun avec toute une chaîne de commandement. Bon, manifestement, c'est ce qui s'est passé dans l'attaque qui a été déjouée dans la nuit de vendredi et samedi.
C'est souvent très jeune pour des centaines d'euros.
Et c'est pour ça, quelques centaines d'euros. C'est pour ça qu'on reste très vigilant dans la protection de l'ensemble de ces intérêts, particulièrement ce week-end, qui est le week-end de la Pâque chrétienne, de la Pâque juive.
Donc, et de la Pâque juive également.
Sur ce qui s'est passé, sur la City, c'est une décision de ces entreprises américaines, c'est leur décision. L'alerte qu'ils énoncent n'est pas recoupée par les services de renseignement français, elle n'est pas recoupée.
Mais vous
la
comprenez ?
Il y a un niveau de vigilance. J'ai toujours un peu de mal à le comprendre, mais c'est la responsabilité de chacun des acteurs. Voilà, nous, on n'a pas à se mêler de ça. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis à la tête de services de renseignement français qui évalue la menace, notamment la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, dont c'est le rôle, dont c'est la mission. Voilà, nous, on ne recoupe pas des menaces qui justifieraient que de telles mesures soient prises. Maintenant, c'est la responsabilité de chaque entreprise. Moi, je suis en contact avec les responsables de ces entreprises puisqu'ils m'ont prévenu de leur décision. Et voilà.
D'inciter leurs salariés au
télétravail. Moi, je leur ai bien redit que nous, on assurait une protection évidemment de l'ensemble de ses intérêts comme on l'a toujours fait, et voilà, donc cette décision a été prise, c'est de leur responsabilité, mais ça ne correspond pas à une information des services français.
Parce que je sais que dans la semaine, plusieurs confrères vous ont demandé est-ce qu'on peut aller dans des enseignes de fast-food américaines. Encore une fois, vous dites attention, restons sereins. La menace est là, mais contrôlée, c'est ce que vous nous dites aussi ce matin.
On est toujours serein, voilà. Donc le risque zéro n'existe pas, mais on a un dispositif de protection qui est déployé sur tout le territoire. C'est ce que m'ont demandé le Premier ministre et le Président de la République. C'est ce que je mets en place comme ministre de l'Intérieur.
Sur le calendrier très précis, vous y faisiez référence, la Pâque, mais également la Pâque juive, là aussi, des forces de l'ordre positionné vers les églises, vers les synagogues, c'est
absolument,
ça aussi ce que vous mettez en place.
Il y a
place
un gros dispositif de protection de l'ensemble des offices, des processions, de l'entrée-sortie des fidèles dans les lieux de culte, position statique ou dynamique, en fonction des lieux. Voilà, tout ça a été mis en place par les préfets de la République, que je veux évidemment saluer pour leur engagement et l'ensemble des responsables de gendarmerie et de police.
Laurent Nunez, on va parler dans quelques instants de votre nouvelle loi que vous allez présenter en Conseil des ministres à la fin du mois, je crois, sur le séparatisme. Une. Mais d'abord, j'aimerais vous interroger sur un discours vieux de quelques semaines que vous avez tenu le 12 mars à la Grande Mosquée de Paris. Un long discours au cours duquel, vous avez exprimé votre opposition à interdire le port du voile pour les mineurs dans l'espace public, je précise. Ces propos ressortent, ont été utilisés par certains de vos opposants politiques, je pense notamment à Marine Le Pen, sur certaines chaînes de télévision également. J'aimerais qu'on clarifie votre position là-dessus. Vous assumez tous vos propos, vous êtes contre l'interdiction du voile pour les mineurs.
Ces propos, donc, vous avez raison de dire, c'était dans le cadre d'un discours assez long pour l'Iftar, la rupture du jeûne.
Absolument.
La grande mosquée
après le Ramadan
de Paris. Je me suis rendu comme ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes. Le ministre de l'Intérieur, c'est aussi le ministre des Cultes. Et j'ai tenu un discours, d'ailleurs qui a été rendu public, qui est accessible, d'une grande fermeté, pour rappeler, comme je le fais à chaque fois, que le gouvernement français, et moi-même, comme ministre de l'Intérieur, mais c'est aussi l'histoire de ma vie comme fonctionnaire, je suis intraitable. Je suis intraitable sur le séparatisme, l'entrisme islamiste,
la radicalisation,
tous ces mouvements qui visent à considérer et à imposer le fait que la loi religieuse soit supérieure aux lois de la République. Et c'est ce discours de fermeté que j'ai tenu, tout en évidemment en indiquant qu'on allait continuer à être extrêmement ferme, tout en rappelant que c'est une mission qui est délicate à mener. On n'est pas dans la brutalité, c'est parfois difficile, et c'est dans ce cadre-là que j'ai parlé de l'interdiction du port du voile de jeunes filles. C'est dans ce cadre-là que j'ai parlé, dans les mesures qui visent à éviter toute forme de stigmatisation.
C'est interdiction à l'école,
c'est uniquement
donc
à, non, pas de, enfin, interdiction à l'école, c'est dans la loi.
C'est dans la loi, mais difficulté. Vous ne souhaitez pas qu'elle soit étendue à l'espace public.
Je termine, puisque tous les propos donnent lieu à polémique. C'est cette phrase qui a été complètement sortie de son contexte et commentée effectivement dans certains médias, mais le propos. Alors, est-ce que, très honnêtement, voir des petites filles de 6, 7 ans voilées sur l'espace public me choque? Évidemment oui. On peut se demander où est le libre arbitre. Quand on a 6, 7 ans, on peut se demander effectivement où est le libre arbitre. Ce que signifie cette différence imposée et par des adultes. Donc est-ce que c'est un problème? Oui, évidemment.
Mais vous êtes
contre? Laissez-moi finir. Est-ce que c'est une priorité dans l'action que je mène pour lutter contre l'entrisme et le séparatisme? J'ai plus de leçons à recevoir de personne sur mon engagement sur ces sujets. Nous avons porté la loi de 2000. 21. Mm-hmm. Nous avons évidemment porté les lois antiterroristes, mais je n'y reviens pas, c'est autre chose. Mais dans le même temps où cette polémique naît, je présente au président de la République, au Premier ministre, on a déposé d'ailleurs au Conseil d'État ces jours-ci un projet de loi qui vise à renforcer la loi pour lutter contre le séparatisme islamique. Et j'ai lancé il y a quelques jours, qui a abouti il y a 48 heures, l'interdiction du rassemblement des musulmans de France, donc que nous rattachons clairement à la mouvance des frères musulmans, j'ai lancé leurs mesures d'interdiction. Donc voilà, je n'ai plus de leçons à donner de mon engagement sur ces sujets.
Pas de leçons, effectivement. J'y reviens à ma question. Vous êtes contre.
Je dis qu'il faut être prudent sur ce type de mesures. Il faut mener ces actions contre les adultes, contre les structures qui essaient d'imposer les lois religieuses sur les lois de la République.
Parce que vous dites quoi, ça brouille le message.
C'est pas que ça brouille le message. Ce sont des mesures qui peuvent conduire à stigmatiser, à donner l'impression à nos compatriotes musulmans que finalement on ne les associe pas à la communauté nationale.
Pourquoi, selon vous, ces propos ressortent maintenant? Encore une fois, il date du 12.
Ce sont des propos que j'ai toujours tenus. Mes propos ont toujours été dans la fermeté. J'en ai plus à en faire la démonstration. Ça fait 15 ans que je lutte contre le séparatisme et l'entrisme islamique avec beaucoup de fermeté. Ils sortent effectivement maintenant. Je ne sais pas. Je ne veux pas faire peut-être qu'il faut que je rapproche ça à la dénonciation que j'ai faite de propos qui avaient pu être tenus et qui sont poursuivis en justice. On verra quelle suite sera donnée en matière des propos qui avaient un caractère d'injure publique contre le nouveau maire de Saint-Denis. J'en sais rien. Écoutez, je ne fais pas de commentaires. Ce que je veux rappeler, c'est ma fermeté.
C'est votre fermeté et ce nouveau projet de loi contre le séparatisme. Voilà.
Il faut le savoir, moi je suis le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est aussi le ministre du vivre ensemble, de la cohésion nationale, c'est le ministre du lien. Moi je dois veiller à ce que tout le monde vive ensemble.
Voilà. Mais vous comprenez peut-être que du point de vue de certains de vos opposants, ces propos aient créé peut-être le trouble.
Je trouve surtout qu'ils sont sortis de leur contexte et qu'ils font fi de tout ce qui a été mon engagement en matière de lutte contre l'islamisme politique. Et ceux qui les ont tenus n'ignorent pas mon engagement.
Et c'est très clair sur le projet de loi contre le séparatisme, pardonnez-moi, je le disais encore un, parce que une loi a été votée en 2021, ce n'était pas suffisant, il en faut encore un aux téléspectateurs qui nous regardent, qui se demandent est-ce qu'on empile les textes les uns sur les autres.
C'était suffisant, on a fermé énormément de structures associatives qui étaient dans le séparatisme islamiste, on a fermé aussi des lieux de culte, on continue à le faire, il y a énormément de contrôle d'accueil collectif de mineurs. Il y a un certain nombre, et c'est pour ça qu'il y aura un nouveau projet, il y a un certain nombre de structures que l'on ne peut pas atteindre à droit constant, donc on modifie. Voilà, on a un sujet sur les fonds de dotation, on a un sujet sur le contrôle de l'accueil collectif des mineurs, il faut qu'on puisse tous les contrôler, ça n'est pas le cas aujourd'hui.
Et ce texte le permettra.
On a un sujet sur les publications aussi, les publications pour les plus jeunes, c'est la protection des mineurs. Pour les publications des plus jeunes, on a un des polices spéciales, mais on voudrait pouvoir plus généralement interdire des ouvrages qui comportent des propos qui sont des appels à la haine, à la violence ou discriminatoire.
Rapidement, est-ce que vous aurez le temps? On a compris dans la bouche du Premier ministre que cette année avant la présidentielle ne devrait pas être une année pour rien, mais on s'interroge sur le calendrier législatif. Est-ce que vous irez au bout de l'examen de ce texte?
On verra à quel moment on l'inscrit. En tout cas, on le dépose et on continue à travailler sur ce sujet. Mais dans le même temps, vous savez, on n'est pas les bras ballants. On a des textes juridiques qui nous permettent d'agir. On le fait tous les jours et les préfets en font la démonstration tous les jours sur le territoire de la République.
Laurent Nunez, les élections municipales, récentes élections municipales, ont été le révélateur d'une violence contre les élus. Il y a parfois des actes de violence, mais également la violence dans les mots. Hier soir, on a appris que le parquet de Paris ouvrait une enquête pour injures à caractère raciste après que le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, a été visé sur la chaîne de télé CNews. Est-ce que l'ouverture de cette enquête vous satisfait ce matin ?
Ça va permettre d'éclaircir les choses, voilà. Donc,
d'attaques ignobles, d'injures ignobles à l'Assemblée nationale.
Mais bien sûr, il y a des propos qui ont été tenus, tout le monde a en tête ces propos. Donc voilà, je l'ai dit, je l'ai qualifié, je redis, ce sont des attaques qui sont ignobles. La justice a été saisie, c'est le maire de Saint-Denis qui a porté plainte et le préfet de la Seine-Saint-Denis va se porter partie civile.
Un rassemblement doit se tenir d'ailleurs dans la ville de Saint-Denis demain, samedi à 14h. Vigilance là aussi particulière, pas d'interdiction. Vous laissez ce rassemblement se tenir.
C'est un appel contre le racisme. Voilà, il y a un certain nombre de structures d'associations qui appellent à ce rassemblement. Donc voilà, ce que je veux rappeler, évidemment, il n'y aura pas d'interdiction de ce rassemblement qui sera encadré. C'est un rassemblement contre le racisme. Je ne voudrais pas que, eu égard aux structures qui appellent à se réunir ce jour-là, que ce rassemblement se transforme en rassemblement anti-police ou qu'on entend des slogans anti-police. Voilà. Il y a une cause, la lutte contre le racisme, qui est une cause juste, ne mélangeons pas tout. Et je souhaite vraiment qu'il n'y ait pas de, il n'y aura pas de débordement, évidemment, sur l'espace public, mais pas non plus de débordement dans les slogans.
Mais c'est une crainte que vous pouvez avoir, vous, en tant que ministre de l'Intérieur, ou des remontées que vous avez des renseignements?
C'est pas une crainte que j'ai. C'est voilà, je rappelle la règle et voilà, ça me paraît important de le rappeler.
Laurent Nunez, Saint-Denis, mais comme d'autres villes aussi conquises par les insoumis à l'occasion de ces élections municipales, qui ne souhaitent pas que leur police municipale soit armée, ou en tout cas remettent en cause ce principe. Vous avez présenté en Conseil des ministres un projet de loi sur la sécurité du quotidien, plus de répression envers les infractions trouble-blanc, le quotidien des Français, donne plus d'outils aux forces de l'ordre. On s'interroge sur son application, des libertés individuelles aussi, des associations s'en inquiètent. Est-ce que vous craignez peut-être que certains articles puissent être retoqués ? Où tout a été fait pour que l'application soit possible?
Non, enfin, il y a déjà des mesures qui visent à durcir certaines infractions qui empoisonnent la vie de nos concitoyens, qui sont des infractions graves, les rodéos, l'usage des mortiers, les rêves parties illicites, les squats, l'utilisation du protoxyde d'azote. Je ne pense pas que ce sont des sujets assez consensuels. Et puis, il y a une seconde partie à ce projet de loi. Donc, il y a un choc d'autorité. On réprime plus sévèrement des infractions. On crée des procédures administratives pour avoir un effet immédiat pour lutter contre toutes les infractions que je viens de citer. Et puis, il y a un volet qui vise à renforcer les moyens des forces de sécurité intérieure, avec notamment l'usage d'électeurs automatique de plaques d'immatriculation. On a des possibilités accrues de réaliser des fouilles, des contrôles pour lutter contre la délinquance et la criminalité organisée. Évidemment que ces mesures seront plus débattues, mais c'est mon rôle de porter le texte et c'est mon rôle d'expliquer à la représentation nationale toute l'utilité des mesures que nous proposons pour mieux lutter contre la délinquance et la criminalité organisée. Et c'est ce que tout le monde souhaite.
Mais vous entendez les appels de certaines associations qui disent, notamment sur la vidéosurveillance algorithmique, que peut-être on va trop loin, que sur les libertés individuelles précisément, il y a peut-être des failles et des choses qui ne vont pas dans le bon sens.
Je pense que vous pointez la seule mesure qui sera discutée, comme elle l'avait été quand elle a été expérimentée pendant les Jeux Olympiques, comme elle l'a été dans le débat sur comme elle a été introduite pour les Jeux Olympiques d'hiver à venir, et elle sera évidemment commentée. Elle avait été adoptée et nous expliquerons qu'il ne s'agit d'une assistance aux opérateurs vidéo pour leur permettre de mieux détecter des événements anormaux, et ce pour lutter contre le terrorisme ou les menaces et les atteintes graves à la sécurité des personnes. Voilà, je défendrai ce texte. Je vais le porter jusqu'au bout. Mais vous citez effectivement la mesure qui mérite une pédagogie renforcée, et c'est ce que je ferai.
On arrive à la fin de cette interview. Juste une dernière question. Vous êtes allé en Algérie il y a quelques semaines. Avez-vous des nouvelles de notre compatriote Christophe Glaize quant à sa libération?
L'affaire est suivie par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est une, évidemment, j'avais évoqué ce dossier, je l'avais dit. Mais je vous le redis, en accord avec la famille de Christophe Glaize, je ne souhaite pas évoquer publiquement les échanges que j'ai pu avoir là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que la relation policière, judiciaire et la coopération migratoire avec l'Algérie repart.
Mais on a une pensée pour notre confrère encore ce matin, Christophe Glaize, toujours emprisonné.
Évidemment.
Merci infiniment, Laurent Nunez, d'avoir été notre invité ce matin. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
Ne bougez pas sur RMC dans un instant, la semaine face à Canteloup. Et cette semaine, Nicolas Canteloup revient notamment sur la visite d'Emmanuel Macron à Disneyland Paris.
RMC, une semaine face à Canteloup.
Et cette semaine, Éric Ciotti était dans le face-à-face et il est resté face à Canteloup.
Rebonjour Éric Ciotti. C'est le choc des titans. Des maires RN ont enlevé les drapeaux européens de la façade de leur mairie. Vous trouvez ça bien, Éric Ciotti?
Non, écoutez. Écoutez, ce n'est que de la déco. Je ne peux pas juger, je ne suis pas Valérie Damidot. Certains enlèvent le drapeau européen, certains brûlent le drapeau algérien, d'autres mettent des têtes de cochon sur leur grille de jardin. Voilà. Après, les goûts et les couleurs, vous savez, moi par exemple, je suis habillé par Hugo Boss, vous par Stabilo Boss. Bon, voilà.
Monsieur Ciotti, elle est belle la vie à Nice depuis votre victoire?
Finalement, pas tant que ça, vous voyez. Christian Estrosi me manque tellement. Vous savez, dans cette campagne, ce qui était sympa, c'est de tout faire pour dégager Christian. Mais maintenant que c'est fait, Ma vie n'a plus de sens. J'ai perdu cette petite folie, la passion de mon métier. C'est fini le temps où je me levais à 4 heures du matin, le feu dans les yeux, en me demandant où j'allais bien pouvoir trouver encore une affiche de Christian que je n'ai pas déjà tagué ou cramé. Non, finalement, sans Christian, la vie n'a plus la même saveur. Je suis Nadal sans Federer. Je suis Luke Skywalker sans Monsieur Dark Vador. Je suis Prost sans Sénat. Je suis Messi sans Ronaldo.
C'est bon, on a compris.
Non mais attendez, j'en ai d'autres. Je suis Mathieu Béliard sans Pascal de la Tour du Pin. Je suis Dominique Tenza sans Perrine Storm. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils ont été estrocisés.
Vous êtes triste à ce point, dis donc.
Mais non, je kiffe ma meilleure vie. Il s'est barré le motard. Enfin, on est débarrassé. Bon, ceci dit, Mère Denis, c'est quand même du travail. Je pensais pas, sinon je me serais pas présenté. Non, je gère 350 000 personnes âgées. Vous savez, je suis quelque part le gérant du plus gros EHPAD de France. Oui, je gère des retraités et notamment, répétons-le, Christian.
Laurent Wauquiez voulait également vous dire un mot. Éric Ciotti, il est là.
Oui. Oui, bonjour Apolline. Bonjour, non, Apolline, Laurent, ne m'en veux pas. Ce matin, cette musique n'est pas pour toi. Elle est pour Éric Ciotti. Je t'expliquerai. Oui, Éric, nous deux, ça a toujours été une grande et belle histoire.
Bah, ça va. Vous gênez pas tous les deux, là? Tranquille.
Oh, tu es encore plus belle quand tu es en colère, Apolline. Mais ne sois pas jalouse. Tu sais, avec Éric, c'est juste professionnel. En fait, c'est une technique de séduction que j'ai expérimentée dans ma jeunesse dans les boîtes de nuit du Puy-en-Velay. Enfin, la boîte du Puy-en-Velay, puisqu'il n'en a qu'une. Ah oui. C'est de draguer la meilleure copine de la fille que tu veux pécho.
Je vous suis pas.
Bah, écoute, ça fait des années que je rêve secrètement de rejoindre Marine Le Pen. Alors, maintenant qu'Éric est sa meilleure copine, je me dis qu'en passant par lui, je vais peut-être y arriver. Bon, je vous laisse, je vais profiter du printemps.
Je vois pas le rapport.
Bah, qui dit printemps dit fin de la trêve hivernale. Le moment où on a le droit de faire dégager les locataires squatteurs indésirables. Je vais me faire un plaisir d'expulser Bruno Retailleau de mon bureau.
Ce matin, Gilles Kepel était mon invité. Il est resté avec nous. Rebonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Dominique de Villepin voulait réagir.
Madame de Malherbe. En effet, j'ai écouté attentivement M. Kepel nous exposer la situation actuelle au Moyen-Orient. Je trouve qu'il a progressé.
Bon.
Même si, bien sûr, il est encore loin d'avoir le niveau qui est le mien. Cette capacité à sublimer les mots pour embarquer son auditoire. Cette éloquence, cette maîtrise de l'art oratoire qu'on admire chez moi. Moi, y compris.
Ah, alors, la situation au Moyen-Orient elle-même. Vous rejoignez l'analyse de Gilles Kepel, Dominique de Villepin?
J'y viens. Dans les propos de M. Kepel, tout n'était pas parfait. Nous sommes d'accord. Nous en parlions d'ailleurs avec Laurent Neumann, mais on ne peut pas lui en vouloir. Lui n'a pas été comme moi un ministre des Affaires étrangères mondialement reconnu et envié, qui a côtoyé les plus grands dirigeants de la planète, qui fut la tête de proue du bateau France sur l'océan déchaîné de la géopolitique mondiale. Oui, je suis poète. C'est donc normal que M. Kepel tâtonne encore un peu, mais assez parlé de lui. J'aimerais à présent vous exposer ma vision. Ma vision, c'est que cette guerre est excellente pour les affaires.
Alors, c'est pas tout à fait ce qu'a dit Gilles Kepel.
Oui, pour lui peut-être, parce qu'il n'écrit que des livres à 20 euros, mais moi qui facture 100 000 dollars le moindre conseil à n'importe quel ministre Angela Ba de la région, je remplis le tiroir caisse.
Merci beaucoup, monsieur de Villepin. Emmanuel Macron est aussi avec nous. Monsieur le Président, bonjour.
Oui, mais écoutez, bonne nouvelle, Apolline Malherbe. Ça y est, c'est ouvert.
C'est ouvert, c'est-à-dire vous avez réussi à négocier avec les Ligériens. Ils rouvrent le détroit d'Ormuz.
Mais non, mais on s'en fout des détroits d'Ormuz. Non, mais je vous parle du village de la Reine des Neiges à Disneyland Paris.
Ah oui, c'est vrai
que j'ai passé toute la journée de... Voilà, ça y est.
Oui, enfin, c'est quand même pas le même impact sur l'économie française que le détroit d'Ormuz.
Mais si, ça a quand même un impact sur notre économie. Allons, Apolline Malherbe, grâce à Disney, plus besoin de verser d'allocations chômage pour les déçus des municipales. Mmh. Je les ai recasés à Disneyland Paris. François Hollande en Dumbo, Anne Hidalgo en petit rat de Ratatouille et Rachida Dati en Cruella, voilà. Et on n'a même pas besoin de les déguiser, on reconnaît les personnages.
Au fait, vous avez vu pour Edouard Philippe?
Ah ben oui, alors lui c'est direct chez les 101 Dalmatiens.
Non, mais je vous parlais du sondage.
Ah non, mais...
Pardon. Seul Edouard Philippe serait en mesure de battre le RN au second tour.
Ah mais c'est sûr qu'Edouard a pour lui un atout indéniable. Les Français veulent des nouvelles têtes. Et lui, il en change toutes les trois semaines. Oh,
merci Nicolas, on retrouve Face à Canteloup absolument quand on le veut en podcast et puis lundi matin sur RMC. Dans un instant les GG avec Alain Marchal, c'est quoi le programme Alain ?
Ah bien, nous allons parler dans les GG, dans les grandes gueules, bien évidemment des conséquences du carburant sur notre vie quotidienne avec cette impression, et encore ce n'est pas une impression, c'est peut-être le début d'une tendance lourde, c'est-à-dire que les Français vont moins rouler, on le constate déjà, et surtout moins consommer. C'est parce que comme le carburant coûte plus cher, eh bien faut modifier son train de vie. Moins consommer, moins rouler. Est-ce que c'est ce que vous allez faire? Vous venez en discuter avec nous au 32-16. On reparlera de la garde à vue de Rima Hassan, bien évidemment. Alors, du côté de la France Insoumise, on soutient à fond, bien sûr. Rima Hassan fera une conférence de presse cet après-midi avec à la fois l'apologie du terrorisme et puis ce que dit le parquet, c'est-à-dire qu'il y avait du CBD dans son sac ainsi que de la 3-MMC, une drogue de synthèse. Vous venez commenter ça avec nous au 32-16. Et puis, on parlera politique et on regardera ces primaires que l'on veut organiser à gauche et que l'on veut organiser à droite. Les primaires, est-ce que les partis politiques en ont vraiment besoin? Est-ce que les électeurs attendent ça? 32-16 pour en parler avec Mourad Boudjelal, Joël Dagosséry, bien sûr, et Laura Varton-Martinez.